Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'intersyndicale reste unie dans la lutte contre la réforme des retraites du gouvernement d'Elisabeth Borne. Philippe Martinez de la CGT appelle à multiplier les actions partout sur le territoire, dans tous les secteurs. Il était aux côtés de Laurent Berger de la CFDT. Concernant les éventuelles coupures d'électricité ciblées, Éric Woerth estime, lui, qu'il s'agit de terrorisme social. On entendra l'ancien ministre du Travail qui a porté, lui, la réforme des retraites de 2010. La grève s'annonce aussi musclé, vous le savez, dans les transports en commun. Enfin, pour couronner le tout, le prix des carburants remonte à des niveaux records. Tous les clignotants sautent en rouge dans notre pays. On débat de la situation dans un instant dans Punchline. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h et c'est Mathieu Devez qui est là.
Les syndicats de la RATP appellent à la grève et à manifester le 31 janvier. Une réunion de l'intersyndicale s'est tenue aujourd'hui à la Bourse du Travail à Paris. Le 19 janvier, trois lignes avaient été fermées quand d'autres lignes du métro ne fonctionnaient qu'en heure de pointe. Les syndicats se retrouveront début février pour décider des suites à donner au mouvement contre la réforme des retraites. Le trafic reprend plus vite que prévu à la gare de l'Est à Paris. Selon la SNCF, les travaux de réparation après un incendie volontaire ont bien avancé cette nuit. Ils se poursuivent aujourd'hui. La circulation a repris pour 3 trains sur 4. La journée avait commencé avec seulement un TGV sur 3 aux heures de pointe. L'enquête, elle, se poursuit. Et puis une étudiante agressée au couteau sur un campus universitaire à Paris. Les faits se sont déroulés vers midi sur le campus universitaire de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement de la capitale. L'étudiante sortait d'un ascenseur quand elle a été agressée à l'arme blanche. Son pronostic vital est engagé. Un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Enfin, l'Allemagne va livrer des chars Léopard pour aider l'Ukraine. La Russie dénonce une décision dangereuse. Selon l'ambassadeur russe en Allemagne, Berlin ne veut pas d'une solution diplomatique, mais d'une escalade permanente. L'Allemagne a annoncé l'envoi de 14 chars Léopard à l'Ukraine et va autoriser les pays qui en détiennent à livrer ces blindés.
Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. Jusqu'où iront les syndicats? C'est la question qu'on se pose ce soir avec Karim Zeribi, consultant CNews. Bonsoir Karim.
Bonsoir Laurence.
On accueille aussi Benjamin Hamar, porte-parole de la CGT 94. Bonsoir Monsieur Hamar.
Bonsoir.
Nous sommes avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Et Eric Revel, journaliste.
Bonsoir Laurence.
Bonsoir, vous êtes tous en forme. Super. On va débattre. Ouais. Allez, on va commencer par partir du côté de l'Assemblée nationale. C'est là que l'intersyndicale s'est présentée il y a quelques instants. On rejoint Gauthier Lebret et Olivier Gangloff. Bonsoir à tous les deux. Je sais qu'il fait froid, donc on va faire vite, mon cher Gauthier. C'est intersyndical, on a vu...
vous inquiétez pas.
Je sais que vous êtes toujours prévoyant, mais on a vu les syndicats arriver ensemble pour la photo. Est-ce que l'intersyndical est vraiment uni ou pas, Gauthier?
Alors officiellement oui, ils sont unis et d'ailleurs c'est la première fois depuis 12 ans que les 8 syndicats comme ça organisent des conférences de presse et parlent quasiment d'une seule voix. C'est depuis l'une des dernières réformes des retraites, celle d'Éric Woerth. Mais effectivement il y a des différences d'approche très nettes, notamment sur les blocages entre la CGT de Philippe Martinez et la CFDT de Laurent Berger. Exemple très concret, la SNCF et les départs en vacances en février. La CGT Cheminot et Sudrail ont appelé à une grève le 7 et 8 février prochain. On a posé tout à l'heure la question à Laurent Berger, qu'est-ce qu'il pense de cet appel à la grève? Pour le moment, la CFDT n'a pas appelé à la grève. Eh bien, Laurent Berger, il est contre les blocages et son argument est de dire que l'opinion aujourd'hui, eh bien, est du côté de la CFDT et de la CGT et du côté des syndicats contre cette réforme des retraites. Et la crainte de Laurent Berger avec ces blocages, eh bien, c'est de perdre l'opinion. Et selon lui, c'est d'ailleurs le pari cynique du gouvernement. Si les syndicats bloquent le pays, eh bien, selon Laurent Berger, l'opinion pourrait donc se retourner. Alors pourquoi ils étaient là aujourd'hui? Parce que les syndicats vont être entendus en commission des affaires sociales ici à l'Assemblée. Et puis Laurent Berger, il va avoir un rendez-vous de plus que les autres avec Éric Ciotti, le patron des Républicains. Il va faire du lobbying auprès d'Éric Ciotti. Il va essayer de plaider sa cause et va démontrer à Éric Ciotti effectivement que pour le moment il n'y a qu'une quinzaine de députés LR qui est prête à voter cette réforme des retraites sur 62 députés. Donc on est très loin d'une majorité de Républicains qui se rangent aujourd'hui du côté du gouvernement. Donc Laurent Berger va présenter présenter ses arguments à Éric Ciotti pour tenter de le convaincre, puisqu'effectivement, Éric Ciotti, il est quelque part isolé au sein de son propre parti. Et ça sera un désaveu d'ailleurs pour le nouveau patron des Républicains si effectivement il n'est pas suivi par ses députés.
Beaucoup Gauthier Lebret avec Olivier Gangloff. On va revoir ces images de cette intersyndicale unie, en tout cas en façade. Écoutons peut-être juste... Allez, je vous passe la parole. Benjamin Hamard, est-ce qu'il y a vraiment une unité? Est-ce qu'il y a une unité sur la façon dont la France doit être bloquée? Ou est-ce qu'il y a des dissensions quand même entre les syndicats, entre vous, la CGT et la CFDT?
Mais un processus intersyndical, c'est toujours une savante alchimie. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut trouver des dénominateurs communs, et en même temps, on demande à personne de s'oublier. Et ce serait hypocrite de le dire. Donc, il y a effectivement une alchimie commune qui permet notamment ces grandes dates et ce calendrier intersyndical. Mais entre ces dates, chacun reste encore libre de s'organiser et de se déployer selon ses modalités. Bon, écoutez, s'il y a des organisations qui effectivement trouvent intéressant de faire du lobbying syndical auprès de certains responsables politiques, c'est leur droit de le faire. Mmh. Si d'autres organisations syndicales, comme la mienne, préfère effectivement appuyer partout sur des mouvements reconductibles, on est encore en droit de le faire. Je pense que ce qui compte, c'est que on ait cet agenda commun. Et d'ailleurs, vous avez ici la déclinaison nationale. Mmh. Mais dans les territoires, ça se décline. Moi, hier, j'étais en intersyndicale avec les organisations du département. Mmh. Et toutes les organisations syndicales, alors certaines n'avaient pas pu être présentes pour des raisons extrêmement, des raisons d'agenda, mais enfin, on avait une ulte, mais elle validait bien évidemment le processus, elle s'inscrit dedans, et on voyait bien que sur les propositions, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette sur la détermination.
Sur la détermination, après sur les modes d'action, c'est effectivement autre chose. Éric Revel, on voit un front syndical uni, des divergences effectivement sur les modes d'action. La CFDT n'est pas tout à fait d'accord avec les blocages envisagés par la CGT, qui vont commencer d'ailleurs très très rapidement. C'est loin d'être la dissension, on est d'accord.
Oui, non, bien sûr. Alors, il y a deux choses que je trouve importantes. C'est un, c'est rarissime que le patron d'un mouvement politique d'opposition discute directement avec un leader syndical sur une réforme aussi importante que celle des retraites. C'est peut-être une nouvelle façon de faire du dialogue social, je ne sais pas, parce qu'en général, ce sont les syndicats et le gouvernement, ou le syndicat et le parti présidentiel. Et je note ce que dit Monsieur Hamard aussi avec beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire peut-être le décalage qu'il y a entre ce que le leader national peut vouloir décider, Laurent Berger, c'est-à-dire pas de blocage, parce que sinon l'opinion publique va aller contre le mouvement. Oui. Et ce que dit M. Hamard, qui est intéressant, me semble-t-il, à ce stade, c'est-à-dire, oui, mais en réalité, sur le terrain, c'est pas exactement la même chose, parce que pour l'instant, vous dites, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre les syndicats sur l'idée qu'à partir de février, il y aura peut-être des grèves perlées, des grèves bloquantes à la SNCF. Donc un décalage peut-être entre le pouvoir national du syndicat de M. Berger et de la CFDT, et ce que vous entendez ou ce que vous entendriez sur le terrain.
En tout cas, nous, on n'a pas entendu, mais ça, c'est valable pour le Val-de-Marne. Hein. Il faudrait voir après ce qui se passe dans les autres territoires. Mais rappelons-nous, il faut avoir un peu de mémoire sur les questions d'actualité sociale. Souvenez-vous du mouvement qu'il y avait eu en 2019, notamment sur la question des retraites, mais dans le champ ferroviaire. Il y avait eu un moment où il y avait des organisations syndicales plus tempérées que la CGT qui avaient dit que, par exemple, pendant les vacances de Noël, il fallait qu'il y ait une trêve. Mais sur le terrain, ça s'était pas passé comme ça. Voilà. Donc, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on garde, mais je pense que tout le monde en est conscient, ce ciment qui nous lie pour faire reculer et faire retirer cette réforme. Et je pense que toutes les organisations syndicales ont bien mesuré la profondeur de la colère, et donc le fait que les Français et les travailleurs nous en voudraient beaucoup à l'organisation ou aux organisations qui déliteraient ce ciment-là.
En tout cas, on est toujours sur une majorité de Français opposés à la réforme, et effectivement, le chiffre ne faiblit pas, et il reste très simple. On écoute juste messieurs Martinez et Berger, et je vous passe la parole, Karim et Geoffroy.
Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger et rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale.
On n'est pas encore en vacances, ok? Il n'y a pas des vacances. Les vacances, c'est la semaine prochaine. Mais non, les vacances, c'est à partir du 5 ou 6, je crois, pour les premières zones. Donc aujourd'hui, il y a une mobilisation le 31. Ce qui est important, c'est le 31. Le 31, il faut qu'un maximum de citoyens, de travailleurs et travailleuses soient mobilisés. dans les manifestations partout en France, le fasse dans le cadre qui était celui du 19, c'est-à-dire de façon revendicative et respectueuse et pacifique. Et c'est ça la démocratie, c'est qu'on puisse s'exprimer comme ça. Donc la CFDT, c'est la voie qu'elle poursuit. Le 31 au soir, on se regroupera de nouveau en intersyndicale pour décider ensemble, ce qu'on fait.
Voilà, on voit bien que pour Laurent Berger, hein, Karim, c'est le 31. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue, manifestation pacifique comme celle du 19 janvier, pour peser sur le gouvernement.
Moi, la conviction que j'ai, c'est que sur les grandes dates, ce front syndical, il est uni et déterminé. Ensuite, effectivement, entre ces grandes dates, il y a des initiatives qui vont être prises par certains syndicats qui ne seront peut-être pas suivies par d'autres. Mais le plus important pour faire reculer le gouvernement, c'est qu'au moment des grandes dates, il y a des millions de Français dans la rue. C'est que ce front-là ne craque pas, ne se délite pas sur les grands moments. Parce que si, effectivement, après avoir mobilisé près de 2 millions de Français dans la rue, le 31, on a au moins autant de monde, si ce n'est plus. Et si derrière, il y a une autre grande date qui suit derrière, le gouvernement a intérêt de s'inquiéter. Ça veut dire que la CFDT, et on sent la détermination de Laurent Berger, qui en plus est très actif dans les coulisses, puisque aller voir Éric Ciotti, c'est aussi convaincre le groupe LR de ne pas s'associer au gouvernement et de l'obliger éventuellement à passer par un 49-3. Je veux dire, ce qui serait quand même gravissime en démocratie pour une réforme de cette importance sur le plan social. Je veux dire et les Françaises et les Français, c'est un totem pour eux, le système par répartition. Passer en force là serait inacceptable. Et le gouvernement ouvrirait la porte à une colère, mais grandissante et durable. Donc moi, je crois que ce front syndical, il est uni sur les grandes dates. Il n'est pas prêt de craquer, loin de là. Ensuite, effectivement, il y a des mouvements qui seront menés ici ou là parce que les salariés sont en colère sur certains territoires et dans certains secteurs d'activité. Donc, et ils ont envie de faire entendre leur colère entre les grandes dates. Et je pense que, encore une fois, dans le pays, ce qui se passe, il y a longtemps que ça n'était pas arrivé.
Geoffroy Lejeune, sur cette action syndicale unie et déterminée.
Moi, j'ai le sentiment que l'unité syndicale sur le sujet de la réforme des retraites est un sujet microscopique par rapport au sujet de l'opposition à la réforme des retraites. Je vais prendre juste deux chiffres pour l'expliquer. Premièrement, le nombre de manifestants dans la rue la semaine dernière, jeudi dernier, qui dépasse de très 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 loin le nombre de manifestants que les syndicats sont capables de mettre dans la rue et qu'ils ont réussi à mettre dans la rue ces dernières années. Et deuxièmement, le pourcentage de Français opposés à la réforme des retraites qui dépasse de très 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 loin le pourcentage de Français qui sont d'accord avec la CGT, la CFDT, etc. Peu importe. Ensuite, il y a cette perte de vitesse des syndicats depuis maintenant plusieurs années, cette perte de représentativité qui, je crois, est loin d'être achevée, voire je pense qu'elle est à son paroxysme en ce moment. Et ensuite, il y a le fait que de plus en plus de mouvements sociaux naissent hors syndicat. C'est-à-dire que je pense qu'en réalité, on s'est habitué, c'est dans notre culture maintenant, même c'est presque une tradition de commenter ce que les syndicats disent dans ce genre d'opposition. Mais en réalité, ça n'est pas du tout un sujet.
70% c'est la base,
des, en fait, c'est bien sûr. Et en fait, la plus grande, pour moi, la plus grande contestation sociale de ces dernières années, ça a été les Gilets jaunes, et ils sont nés absolument hors syndicat. Et du reste, ils se définissaient pas du tout par rapport au syndicat. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, en réalité, c'est l'opposition à cette réforme. Pardon, je vous vois trépigner, j'ai bientôt fini.
Je rigole, c'est pas pareil.
Allez-y. Terminé,
sur les Gilets jaunes, vous ne voyez pas, parce que ça a été un camouflet pour les syndicats, que cette révolte naît sur des ronds-points et pas autour de vous. Et donc, pour terminer là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant avec l'échec dans l'opinion de cette réforme, c'est qu'il y a des critiques qui viennent de la gauche, mais aussi qui viennent de la droite. Mmh. On peut critiquer cette réforme de beaucoup de points de vue, et notamment sur le fait que le gouvernement a donné le sentiment à de multiples catégories de la population qu'elle n'était pas juste. Ça dépasse de très loin le diagnostic des syndicats.
Benjamin Hamard, de toute façon, été sur les syndicats, puis après, on va rentrer dans le détail de la réforme.
Non, c'est amusant, parce que M. Lejeune a passé 90% de son intervention pour expliquer tout le mal qu'il pensait des organisations syndicales et nous décrire comme un carteron de zombies qui n'a plus aucune influence. Bah écoutez, ce serait marrant, c'est amusant, je trouve.
J'aurais pu le dire comme ça, c'est vrai.
C'est amusant, je trouve, de dire cela à un moment où, quelques jours après, une mobilisation de plus de 2 millions de personnes. Excusez-moi juste, par contre, je vous ai pas coupé la parole. Mais si je pouvais juste terminer mon idée tranquillement. En l'occurrence, ça n'a peut-être rien à voir avec nous, mais c'est organisé. Cette mobilisation a lieu le jour où des syndicats proposent des manifestations et donc, effectivement, de manifester. Les gens manifestent avec nous, derrière nos cortèges. Je vous inviterai, monsieur, à derrière le cortège que j'anime dans les manifestations, c'est derrière la banderole et en reprenant nos slogans.
C'est le principe de commandeur chaud. Moi, je veux bien,
monsieur, je veux bien que vous nous expliquiez que quand il y a 2 millions de personnes dans les rues, à l'appel des organisations syndicales, ça signifie qu'on est moribond. Je trouve ça amusant. Maintenant, les Gilets jaunes, ça tombe bien. Moi, je fais partie d'une organisation organisations, la CGT du Val-de-Marne, qui n'a cessé de travailler au maximum de ce que nous avons pu, la convergence avec les Gilets jaunes, et moi personnellement, j'ai défendu, y compris sur les plateaux de CNews d'ailleurs, pendant toute la durée du mouvement, la colère sociale des Gilets jaunes. Mais après, il faut juste rappeler la réalité des chiffres, monsieur. Vous faites partie des gens qui nous ont déclaré effectivement moribonds et agonisants au moment des Gilets jaunes. La mobilisation maximale des Gilets jaunes, c'était 300 000 personnes dans les rues. Là, on est sur un étiage de 2 millions, et vous nous dites que effectivement, on est sous perfusion et qu'on va bientôt disparaître. Je trouve ça cocasse. C'est une analyse idéologique de gens qui, comme vous, détestent les syndicats. Mais on est là, monsieur.
Je suis désolé.
Il n'y a pas beaucoup de syndicats en Europe qui sont capables justement de manœuvrer, de mobiliser, d'organiser et d'impulser de façon à ce qu'on ait aujourd'hui le départ à la retraite le plus bas d'Europe, parce que derrière, il y a des combats syndicaux qui sont efficaces. Voyez-vous. Et ailleurs, partout en Europe, pas mal d'organisations syndicales aimeraient beaucoup être capables de mobiliser comme
ça. Il
ne
s'agit pas de détestation des syndicats, je crois.
Pas du tout. Au contraire, moi, je crois même que le syndicat mériterait d'être plus fort et qu'on mériterait, qu'on gagnerait à avoir un dialogue social constructif. Je
syndicalisme
crois pas que
obligatoire
aujourd'hui. Non, pas forcément. Mais il y a beaucoup de choses, notamment en Allemagne, que je trouve assez intéressantes. Le dialogue social français me paraît peu satisfaisant. Maintenant, c'est pas parce qu'il y avait 2 millions.
67 ans.
Alors attendez, je vais juste vous donner un exemple. Parce que
l'efficacité des syndicats français à défendre les travailleurs, visiblement, est assez pertinente.
Vous vous attribuez le succès de la manifestation de jeudi dernier, le nombre de gens.
Oui, bien sûr.
Oui, non, mais attendez, mais je vais vous expliquer. En fait, à la dernière élection présidentielle, Marine Le Pen a fait 42%. 42% de ses électeurs, a priori, qui sont opposés à la réforme des retraites. Dans les cortèges de jeudi dernier, il devait y avoir des gens qui votaient pour Marine Le Pen, que vous ne vouliez pas voir dans vos cortèges. Je dis ça juste pour une raison, c'est pour dire que les gens qui étaient dans la rue jeudi dernier ne sont pas forcément des gens qui sont d'accord avec vous et ils ne viennent pas forcément.
Ils sont d'accord avec vous sur la réforme des retraites et ils mobilisent et ils rejoignent nos cortèges. Ce ne sont pas des cortèges autonomes de collectifs citoyens.
Mais il y a eu une manifestation.
Mais vous savez quoi, monsieur? Vous allez venir à la prochaine manif et on va vous passer le micro et vous allez dire aux gens derrière la camionnette en fait, tous ceux qui êtes là, vous n'êtes pas d'accord avec les syndicats. Et on va bien rigoler. Voilà, on va bien s'amuser. Ça va être un moment joyeux.
J'ai pas besoin.
Un tout petit mot de carré, après on écoutera Éric Woerth.
Non, je pense que c'est pas le plus important d'essayer de dissocier la mobilisation des syndicats de la mobilisation entre guillemets citoyenne. Je pense qu'il y a une convergence des deux. Donc il faut pas essayer de chercher des poux à qui que ce soit. Les syndicats ont une force de frappe, donc ils la mobilisent. Alors effectivement, elle est ce qu'elle est. Elle est peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être au regard du nombre de travailleurs français. Mais en tout cas, le gouvernement, par ses maladresses, par cette réforme injuste, permet au corps intermédiaire de retrouver des couleurs, de se remobiliser, de retrouver une forme d'unité qu'on n'avait pas vue dans le pays depuis longtemps. Et c'est bien ainsi, parce que encore une fois, il y avait 300 000 personnes au plus fort des Gilets jaunes, avec des manifestations qui n'étaient pas encadrées, et nous étions nombreux à le regretter. D'ailleurs, si derrière ça s'est délité, et si c'est parti un peu en biborine, malheureusement, c'est parce qu'il n'y avait pas cette
un biborine. C'est quoi
l'expression? Un biborine, ça veut dire que ça part un peu.
Marseille.
Ouais, c'est une expression.
D'accord.
En quenouille. On va le dire. En quenouille. En quenouille. Donc c'est vrai, ça s'était délité, c'était parti dans tous les sens. Bon, il y avait du mal à encadrer en matière d'organisation de sécurité de manifestation. Ce qui n'est pas le cas avec des syndicats qui sont, je dirais, structurés, et qui permettent à des Françaises et des Français non syndiqués de venir manifester avec eux à leur côté, en toute sécurité. Donc moi, au contraire, je m'en réjouis de voir...
Oui, mais ça faisait longtemps, Karim, qu'on n'avait pas aussi des cortèges syndicaux aussi calmes. Parce qu'il y a des 1er mai qui s'étaient très mal passés, on s'en rappelle.
C'était pas la faute des organisations
syndicales. Non, je dis pas ça, mais c'était quand même des manifestations syndicales.
On s'est fait agresser, et dans de conditions déplorables, devant d'ailleurs, à part des énergumènes qu'on a laissé faire pendant... plus d'une heure.
Est-ce qu'il faut retenir? Est-ce qu'il faut retenir que les Français, quelle que soit, leur obédience politique, si je peux parler ainsi, quel que soit leur syndicat, si je peux parler ainsi, sont en colère et mécontents d'une réforme qui est injuste. Ils le manifestent en étant très nombreux dans la rue. Mais pourquoi aller chercher des pieds est-ce que c'est les syndicats, est-ce que c'est des citoyens libres? Aujourd'hui, on a une grande partie de la France qui est dans la rue et qui met content.
Mais est-ce qu'on est d'accord aussi, mes chers amis, pour toutes les actions de blocage? Est-ce que, par exemple, bloquer ou couper l'électricité à certaines personnes, ça c'est acceptable, comme le menace de le faire la CGT Énergie? On écoute juste Éric Woerth, ancien ministre du Travail qui a porté la réforme de 2010, puis après je vous fais réagir. Coupure d'électricité ou pas?
C'est la désobéissance civile.
Que vous condamnez?
Bien sûr, je le condamne totalement. On peut défiler, on peut faire grève, tout ça ce sont des droits fondamentaux, mais on ne peut pas commencer à jouer une forme de terrorisme social.
Éric Woerth. Terrorisme social, monsieur Hamar.
Ouais, enfin, excusez-moi, mais monsieur Woerth et d'autres se sont spécialisés dans ces propos inacceptables. C'est pas la première fois qu'on se fait traiter de terroriste. Parfois, d'ailleurs, je pense qu'au bout d'un moment, on va commencer à entraîner quelques-uns en justice parce que ça commence à bien faire. Je rappelle que la dernière fois qu'on s'est fait traiter par le pouvoir en place de terroriste, c'était sous le régime de Vichy, au moment de la fiche rouge, et quand on était dans la résistance. Ça suffit, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, la dernière fois, vous savez, que j'étais ici, on a eu une discussion autour des boulangers. Voilà. Et moi, j'ai appris, malheureusement, 2 heures après le passage sur le plateau, que dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, la CGT Énergie avait décidé de placer en gratuité partielle bon nombre de boulangers, qui étaient effectivement, qui risquaient une coupure d'électricité pour facture impayée.
Ça, c'est le côté Robin des Bois.
Ouais,
et en même temps, ils veulent couper l'électricité chez les riches.
Non, alors, d'abord, ce qu'a dit, soyez précis, je pense.
Les milliardaires,
la question de couper chez les milliardaires, c'est une déclaration notamment de Philippe Martinez dans une émission effectivement sur une autre chaîne qui a proposé cela, qui a évoqué cela. Ce qui était évoqué, il me semble, au départ, c'était concernant des élus qui avaient voté, qui étaient favorables.
Et ça, c'est acceptable.
Écoutez, je vais vous dire quelque chose.
Ah non, mais c'est important.
On va rentrer. Oui, mais très bien.
Vous dites, soyez précis. On est précis.
Non, mais on est précis. Il n'y a pas de problème. Je vais vous dire les choses très clairement. On est assis sur un baril de poudre. Il y a une colère sociale profonde, dont témoignait d'ailleurs les gilets jaunes dont vous parliez, avec une colère sociale explosive. Vous avez parlé des gilets jaunes. Pendant les gilets jaunes, il y a eu effectivement des manifestations et des expressions de colère extrêmement fortes. Parce que les gens sont en train de crever la gueule ouverte. Voilà. Non mais si, c'est encore une fois, je vais vous la refaire. C'est peut-être pas la réponse qui vous convient, mais c'est la mienne.
Et donc, vous avez pas
en l'occurrence,
du tout,
en fait. Laurence
vous pose une question sur ce que vous pensez de la CGT Énergie qui menace de couper l'électricité aux députés qui voteraient mal et Philippe Martinez qui a dit les milliardaires dans leur château.
Et vous
répondez gilets jaunes, ça n'a rien à voir.
Monsieur, je suis en train de vous dire que oui, face à l'explosion de la précarité, la colère sociale, elle monte le curseur.
Mais
si je peux finir mes phrases, monsieur,
que vous dites
à un moment. Alors, ça vous plaît peut-être pas.
Les gilets jaunes, ils ont jamais voulu couper l'électricité.
Les syllabes que je prononce, vous sont irruptives. C'est pareil pour moi. Tout ce que vous dites m'est insupportable. Mais je vous laisse parler. Voilà. Donc, je vais finir. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'effectivement, il va y avoir des propositions d'action qui vont être certaines traditionnelles, d'autres qui vont être plus fortes. Et en l'occurrence, ce qu'a dit la CGT Énergie, moi, personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Aucun souci. Mais par contre, il faudra tout dire. Il faudra tout dire. Quand on fait des plateaux d'émissions sur ces déclarations qui vous posent problème, il faut aussi parler de la question, par exemple, des opérations Robin des Bois, qui, elles aussi intéressent peut-être l'opinion.
Bon,
parce que je vais vous dire
un
truc, elles sont illégales, celles-là aussi.
Éric.
Voilà,
Bon, vous pouvez pas nier quand même que les derniers mouvements sociaux, la grève des contrôleurs à la SNCF, les médecins libres dans la rue et les boulangers sont faits en dehors des organisations syndicales. Vous êtes d'accord? Vous pouvez pas nier ce phénomène, qui est un phénomène sociologique, syndical, intéressant pour vous à analyser, sans doute. Ça, vous pouvez pas le nier. Bon. Maintenant, si... je vais prolonger un peu l'analyse de Geoffroy. Si l'analyse est fausse, ça veut dire que si le gouvernement recule sur cette réforme des retraites, ce sera donc grâce aux syndicats, et vous allez avoir une flopée d'adhésion derrière, parce que tous les gens qui ont manifesté et qui sont là parce que les syndicats l'auront demandé, d'après vous, ces gens-là, ils vont adhérer en masse à la CGT, à la CFDT et à Sudrail, forcément. C'est pas ce qui se passera du tout. Et le pourcentage restera extrêmement faible.
C'est pas automatique.
Vous êtes 10 heures de bonne aventure.
Je vous le dis. Attendez. Mais ça s'est jamais passé dans
les
exercices.
Vous avez 10 millions de personnes qui votent pour un candidat élection présidentielle. Est-ce qu'il a 10 millions d'adhérents derrière?
Il a 10 millions de
cartes, les gars.
Soyez sérieux.
Parce que vous avez parlé de la fiche rouge. Là, je vois que vous mélangez le fait d'être un leader CGT et membre du Parti communiste, visiblement, parce que la résistance dont vous parlez, c'était la résistance des militants communistes.
Ah, monsieur, vous avez des petites lacunes en histoire.
Ah, bah écoutez.
Je vais vous parler de la bataille.
Attendez, je termine. Et la résistance des communistes, elle s'est quand même nettement accrue après la dénonciation du pacte
germano-soviétique, c'est-à-dire une fois que Staline...
On ressort Staline,
plus...
On ressort Staline.
Mais c'est vous qui avez parlé de la fiche rouge.
Oui.
Donc je vais vous faire
de la fiche rouge, pas de Staline.
Je vais faire cette petite mise au point historique que vous avez
c'est
oubliée.
Bien. Alors, maintenant, vu vous aimez bien, vu vous nous parlez...
Répondez-moi sur le nombre d'adhérents et sur le fait que, puisque les syndicats organisent...
Et ça va pas bien, la séquence, elle est compliquée. Bon, moi,
pour reprendre l'émission l'autre fois, reprenez votre souffle, ne soupirez pas.
Ah, mais moi, je suis très bien, moi.
Répondez-moi sur... Puisque c'est les syndicats qui drivent ces grandes grèves, est-ce que derrière vous attendez à une vague d'adhésion?
Mais monsieur, excusez-moi, je ne suis pas Paco Rabanne et je ne fais pas des prédictions. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'en 2019, vu que visiblement vous faites des analyses, mais il y a des trous dans la raquette, en 2019-2020, on a eu effectivement des dizaines de milliers d'adhésions. Mais on n'est pas des comptables, monsieur, je ne suis pas un petit épicier. Et donc, ce qui compte pour moi, vous... Alors, mais par contre, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez lu, mais quand vous parlez... Moi, j'attends que vous ayez fini. Oui. Alors, j'aimerais bien pouvoir faire pareil.
Allez-y,
c'est
monsieur.
Cool, merci. Donc, allez-y. Vous respirez allez-y, visiblement. Allez-y, allez-y. Donc, ce que je vous dis, c'est que je ne suis pas un petit épicier et que mon organisation, ce qui l'intéresse, là, c'est surtout que cette réforme, elle parte aux oubliettes. Voilà, dans les poubelles de l'histoire sociale. Maintenant, vos élucubrations sur vos obsessions anti-cégétistes, je vous les laisse. Ça n'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet. En revanche, ne vous inquiétez pas, on va avoir un éventail d'actions.
On
va être très déterminé.
Les garçons,
les modalités d'action ne vont pas vous aider.
Justement, on va faire une toute petite pause. Ma caméra sur moi. On fait une toute petite pause. On retourne dans un instant. On continue ce débat. On parlera justement de ce qui va se passer dans les transports. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30 en direct sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
L'intersyndicale s'affiche unie malgré quelques divisions. La CGT veut amplifier la lutte contre la réforme des retraites. Le patron du syndicat, Philippe Martinez, appelle le plus grand nombre à multiplier les actions d'ici le 31 janvier. Ce sera la deuxième journée de mobilisation contre le projet de loi. Mais Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, n'est pas partisan des grèves reconductibles soutenues par la CGT ou Sudrail. Aucune revendication pour l'instant après l'acte de sabotage qui a fortement perturbé le trafic à la gare de l'Est à Paris. Un incendie a embrasé environ 600 câbles électriques d'un poste d'aiguillage en Seine-et-Marne. La SNCF a porté plainte et une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire et mise en danger de la vie d'autrui. L'Espagne se dit disposée à envoyer des chars Léopard 2 à l'Ukraine. La ministre espagnole de la Défense l'assure après l'annonce du feu vert allemand à leur livraison. Ces chars lourds sont réclamés avec insistance par l'Ukraine. Pour contrer l'invasion russe, l'Espagne est également prête à former les soldats ukrainiens à leur utilisation.
Merci Mathieu Devez. Il est 17h32, on est en direct sur CNews avec Karim Zerebi, Benjamin Hamar de la CGT 94. Marc Toiti nous a rejoint, bonsoir économiste, bonjour. Auteur de Reset 2, bienvenue dans le monde d'après, Geoffroy Lejeune. Éric Revel, juste un tout petit mot des sabotages là, à la gare de l'Est. Ça a été dit par la SNCF Réseau. La petite musique, c'est quoi? C'est que ce sont les syndicats. Ce serait une forme d'action radicale des syndicats.
Ah, ça, ce serait de la pure calomnie. Sur sachant
que. Non, mais sabotage, ça veut dire quoi?
Non,
en fait
alors, en plus, y compris, moi, j'ai bien écouté Clément Lejeune, le ministre des Transports, qui disait.
Clément Beaune,
qui expliquait qui expliquait que justement ça faisait partie de ces actes de malveillance souvent pour voler du matériel, pour voler du métal. Voilà, j'ai lu ça, il y a une enquête, on verra bien, hein. Mais visiblement ça semblait plutôt crapuleux de type pour les transports régulièrement, ça arrive très souvent qu'on dise soit acte de malveillance, soit accident, hein, c'est dans les transports franciliens, c'est malgré tout assez. Alors là, il y a la manifestation, donc il y a peut-être des scénarios, je pense, assez qui naissent dans la tête de certains, mais il va falloir attention à ne pas tomber dans la calomnie.
Monsieur Villedieu, qui était là à votre place hier de Sudrail, disait attention à cette petite musique qui monte sur le fait que ce pourrait être une forme d'action radicale des syndicats. Juste, on fait un petit point sur ce qui va se passer dans les transports. Explication de Célia Judas, puis on en débat ensuite.
C'est sur un appel à la mobilisation le 31 janvier que s'est conclue la réunion intersyndicale de la RATP ce matin. D'après Bertrand Hamache, secrétaire général de la CGT-RATP, d'autres discussions devraient s'ouvrir prochainement pour déterminer la suite des événements.
À l'heure actuelle, dans l'intersyndicale à l'RATP, les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour aller au-delà du 31. On a encore jusqu'au 31 pour préparer sur cette question-là. Bien sûr qu'on est aussi, on attend aussi voir la mobilisation qui va y avoir le 31, que nous, on estime puissant.
Cette deuxième journée de mobilisation sera également suivie par la SNCF. qui prévoit d'intensifier ses actions, comme évoqué par Fabien Villedieu, représentant du syndicat Sudrail.
Nous, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire grève le 31 avec tout le monde. Faire uniquement des journées de 24 heures, on a la faiblesse de croire que ça ne suffira pas. Si ça ne suffit pas, eh ben, il faut un peu cranter en termes de mobilisation.
Les organisations syndicales de la SNCF ont d'ores et déjà appelé à 2 jours consécutifs de grève, les 7 et 8 février prochains. Alors même que certaines zones seront déjà en période de vacances scolaires, les Français redoutent de pâtir de cette situation.
Je ne sais pas, c'est vraiment c'est la meilleure façon.
Nous, on est en études à Paris, donc... Enfin, on est là, on est obligé de prendre des trains, donc c'est pas cool pour nous.
Pour les syndicats, c'est la seule façon, en fait, de pouvoir faire un levier. Mais c'est toujours sur les mêmes que ça tombe.
Le bras de fer entre organisations syndicales et gouvernement étant engagé, il s'agit pour les syndicats de relever le défi suivant, continuer la mobilisation tout en conservant le soutien des Français.
Marc Toitil, les blocages, ça a un coût économique pour le pays ?
Clairement, un jour de grève dure, c'est-à-dire on tape sur une baisse de l'activité de l'ordre de 20%, c'est quand même fort, mais ça peut arriver. National, hein, bien entendu, ça peut coûter autour des 1,5 milliard d'euros. Alors évidemment,
milliards,
bien sûr, tout à fait. Alors bien sûr, le lendemain, si la grève s'arrête, on rattrape ce qu'on n'a pas consommé la veille.
Mais la reconductible.
Alors voilà, si c'est reconductible, c'est là où ça devient extrêmement dangereux. C'est-à-dire que là, on a des entreprises qui doivent s'arrêter, du chômage technique, et donc à partir de là, on a aussi une baisse du pouvoir d'achat. Donc c'est là où effectivement les salariés, et pas que les salariés, les entrepreneurs risquent également de souffrir, les artisans, les boulangers, etc., qui souffrent déjà aujourd'hui de l'inflation, vont avoir une activité effectivement en berne, et en plus, nous sommes effectivement quasiment en récession. Alors c'est amusant parce que le 31 janvier justement va sortir le chiffre justement du PIB, de la croissance ou pas du quatrième trimestre 2022. Alors, à mon avis, ça va passer à l'as, on va plus parler de la grève qu'autre chose, pourrait montrer que justement au quatrième trimestre on a eu une baisse de l'activité, et pour le mois de janvier on a les premiers chiffres qui viennent de sortir hier de l'activité nationale en France, qui montrent que l'activité a encore baissé au mois de janvier.
Donc pas bon signe.
Pas bon signe, et c'est ce
mais ça, c'est pas dû à la grève.
Voilà, ça c'est pas dû à la grève, justement.
Rien à voir.
Si, effectivement, les grèves arrivent avec des blocages qui durent, justement, il n'y aura pas d'effet de rattrapage, parce que c'est la grève dure, alors à ce moment-là, il y a un vrai danger. On se souvient des grèves de 95, évidemment, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Enfin, peut-être que vous l'espérez, vous, mais c'est vrai que
un mois de blocage
particulièrement dangereux. Mais même si ça dure une semaine, par exemple, ça risque d'être particulièrement dangereux. Et puis après, ça va se télescoper, c'est-à-dire que globalement, peut-être que les Français, soit ils vont complètement se désolidariser du mouvement, ou alors l'inverse, en disant est-ce que c'était le bon moment de faire cette réforme, avec un risque sur l'activité économique.
Un bémol quand même dans le tableau assez noir que vous venez de dépeindre, parce que là, on a eu les chiffres du chômage qui sont de nouveau en baisse pour la catégorie A. On n'a jamais... Oui, pour la catégorie A, je dis bien. Non, mais ça veut dire des gens qui ne travaillent pas du tout. Pas pour les catégories qui ont des CDD ou l'intérim. Donc, le chômage baisse quand même dans ce pays. Puis je rajoute que vous avez dû voir le chiffre de l'année dernière aussi, enfin de 2022, 700 000 CDI en plus ont été créés. Et c'est tout le paradoxe, parce que Marc Toitil a raison, on est sur le bord d'une récession économique potentielle. Et finalement, l'économie française n'a jamais créé autant d'emplois, sauf à imaginer que les patrons transforment les CDD en CDI, parce qu'il y a des secteurs qui sont en panne de main-d'œuvre et qui préfèrent fidéliser leurs collaborateurs.
Rapidement, il y a deux choses. C'est qu'effectivement, l'année dernière, encore, la dette publique a augmenté. Hein, je vous le disais lundi, c'est que le seul pays au troisième trimestre de toute la zone euro où la dette publique a encore augmenté, c'est la France. Dans tous les pays de la zone euro, la dette publique a baissé par rapport au PIB. Il n'y a qu'un seul pays où ça monte, c'est la France. C'est quand même assez incroyable. Donc, évidemment, quand on a le quoi qu'il en coûte qui continue, c'est un peu plus facile de faire de l'activité, mais et parallèlement, il y a effectivement des pénuries de main-d'œuvre. Il y a donc des entreprises qui sont obligées effectivement de conserver leurs salariés, qui leur proposent donc des CDI. Donc ça, c'est vrai que c'est encore du gâchis, parce que au moment où ça commençait peut-être un petit peu à aller mieux, on a cette récession qui arrive, plus ces blocages sociaux, donc ça tombe vraiment mal.
Pour préférer ton CDI qu'en CDD.
Ah ben ça, on est, c'est à tout le monde. C'est heureusement d'ailleurs.
Sur c'est pas le bon moment.
Voilà. Oui, alors, mais très juste. Alors, écoutez, franchement, je pouvais pas mieux dire que ce que vous venez de dire.
Mais c'est pas le bon moment.
Je rebondissais sur votre trait d'esprit, et en l'occurrence, si je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur Toitil, ouais, bien sûr. Alors c'est pas le bon moment, mais c'est pas le bon moment de quoi ? De faire la réforme, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire que on va tous rester bien vigilants au fait que le problème, vous savez, c'est ce que disait, c'est le proverbe chinois, le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. On va faire attention à ce que les gens n'oublient pas le problème de départ, c'est la réforme. Voilà, la mobilisation, elle vient pas parce qu'on savait pas quoi faire de nos vies. La mobilisation, elle vient parce qu'il y a une réforme scélérate et que, vous savez quoi, on va pas laisser faire. Donc, les dérèglements, les blocages, l'impact sur le PIB, il va falloir aller voir Monsieur Macron pour lui dire, salut, tout le monde t'a dit que ça n'était pas une bonne idée. effectivement, ça n'est pas une bonne idée. Donc ça, et ça, on va être vigilant, on va être extrêmement vigilant sur ce point-là. Deuxième réflexion, cette hypothèse que, au bout d'un moment, les Français décrocheraient sur leur soutien aux organisations. Là aussi, il faut pas qu'on ait la mémoire tampon de Dory, la copine de Nemo, et qu'on se souvienne qu'en 2019, la culture. En l'occurrence, donc, on va tous garder en mémoire le fait qu'en 2019, il y a eu cette première réforme avant le Covid, que Emmanuel Macron et son gouvernement tablaient là aussi sur le pourrissement. Je rappelle que à l'hiver 2019-2020, il y a eu des blocages, il y a eu des mobilisations, y compris dans la SNCF. Je me souviens encore des cris d'orfraie de certains qui disaient « Regardez les cheminots CGT qui empêchent les enfants, les petits-enfants d'aller voir leurs grands-parents ». Et l'état de l'opinion, il n'a pas bougé. Et le soutien à la mobilisation, l'hostilité à la réforme n'a pas bougé. Bah, vous savez quoi ? Pour le coup, je vais jouer Paco Rabanne. Ça va être la même, là. Ça va être la même. Ouais, et ça va durer. Et vous verrez qu'on restera.
Il y a un dilemme je dirais, auquel va être confronté le Front syndical. Le dilemme, c'est le suivant. Les jours de grève sec ont de fortes chances d'être suivis massivement. Si vous appelez à une grève reconductible, il va y avoir quand même une réalité.
C'est le
portefeuille des salariés. On sait qu'on est dans un contexte d'inflation, de difficultés, de fin de mois, où énormément de salariés n'en peuvent plus. Et on parle d'éléments essentiels, remplir le frigo, on ne parle pas de partir en vacances à Dubaï.
Et payer les factures d'électricité.
Donc ça veut dire que les syndicats, le front syndical, si on ne veut pas qu'ils se fissurent, on est quasiment certain que des jours de grève secs, de mon point de vue, c'est l'ancienne aussi déléguée syndicale qui vous parle, seront suivis massivement. Parce que les salariés, par leur colère, feront l'effort d'être mobilisés présents.
Mais
en revanche, si on les appelle à des grèves reconductibles, certains se poseront des questions à juste titre, légitimement. Non pas parce qu'ils ne soutiennent pas le mouvement, mais parce qu'ils ne pourront pas l'assumer financièrement à la fin du mois. Qui plus est, effectivement, l'état de l'opinion est fondamental. Et c'est important qu'il y ait du monde dans la rue et que l'opinion dans les sondages continue de maintenir un soutien à ce mouvement. Donc il y a ces deux paramètres. C'est un dilemme pour le front syndical qui doit rester uni. Après, il y aura peut-être dans certaines catégories donc des mouvements intermédiaires entre les deux, donc entre deux dates importantes. Ouais. On pense aux cheminots, on pense aux raffineries, on pense à ceux qui ont une capacité aussi de mobilisation. Mais encore une fois, je veux dire, c'est bien beau de parler de grève et de perdre de l'argent et de compagnie, mais il faut peut-être aussi parler de la raison pour laquelle les gens sont dans la rue. La raison, c'est cette réforme injuste qui met les gens en colère. Un petit mot quand même sur le chômage et la baisse du chômage. On a quand même plusieurs éléments qu'il faut aussi analyser. On parle de catégorie A, comme l'a dit Éric Revel. Ça veut dire qu'il y a eu aussi des radiations, et puis il y a des gens qui sont passés en catégorie B et C. Ça veut dire qu'ils sont quand même aussi au pôle emploi. Et puis moi, je me pose une question, philosophiquement, il va falloir qu'on se la pose aussi collectivement. Faire baisser le chômage, c'est bien, mais est-ce que fabriquer des travailleurs pauvres, c'est durablement tenable ? Parce que c'est important de dire que les gens ne sont pas au chômage. Mais s'ils sont en activité, mais qu'ils crèvent la bouche ouverte, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, elle est forte, mais elle aussi réelle, à la fin du mois, parce que vous ne pouvez pas vivre dignement dans notre pays avec 1300 euros par mois. C'est impossible. Cette question, il va falloir qu'on se la pose au-delà des partis politiques. Et il y a des gens qui ne sont plus au chômage, qui sont salariés, mais pour autant, ce sont des travailleurs pauvres. Est-ce que c'est une société d'espérance, ça, ou est-ce que c'est une société capable de venir ?
Marc, un tout petit mot, puis après je vais Geoffroy.
On touche quand même au cœur du problème, c'est-à-dire la valeur travail. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut que ça soit bien rémunéré. Donc le vrai enjeu, il est très simple, c'est qu'aujourd'hui, si on augmente les salaires pour tout le monde, on a tous envie de le faire, bien entendu.
Mais les bas salaires, on parle là.
Oui, d'accord, mais globalement, le problème, c'est que si vous augmentez que les bas salaires, que les salaires intermédiaires, ils n'augmentent pas, après l'écart se réduit. Donc moi, je suis pour, bien entendu, augmenter les salaires pour tout le monde, mais les salaires nets. Ça veut dire effectivement, on va réduire certainement les charges ou les cotisations qui pèsent et réallouer la dépense publique.
Mais vous êtes la mesure Fillon qui propose des allègements de charges sur les bas salaires. Pourquoi c'est une trappe à bas salaires ?
Pourquoi on ne le fait pas
pour des salaires intermédiaires ?
Mais c'est ça, parce que sur les bas salaires, il faut le faire pour tout le monde.
Mais aujourd'hui, c'est sur les bas salaires.
Non, mais le problème, c'est qu'il faut le faire pour tout le monde. Mais si on fait ça, il faut effectivement réduire certaines dépenses parce qu'elles sont financées par ces cotisations ou ces charges. Et donc, mais là, il faut un courage politique de le faire. Donc tout l'enjeu, évidemment. Et là, c'est qu'aujourd'hui...
Mais c'est des charges à partir de 2000 euros net, et pas à 1300 euros. Pour tout le monde, 1300 euros, les gens n'augmenteront pas les salaires.
Tout le monde, justement, pour tout le monde. Mais par contre, le vrai enjeu, encore une fois, c'est l'inflation aujourd'hui. Moi, je pense que s'il y a autant de mobilisation, c'est pas uniquement à cause de la réforme des retraites. Et moi, je suis d'accord, ça tombait mal. Et puis surtout, fixer un âge comme ça, ne pas donner de degré de liberté aux Français, c'était une erreur, ça c'est clair. Mais le vrai enjeu, c'est que c'est aussi une réponse au ras-le-bol lié à l'inflation qui est trop forte.
Juste là-dessus, je me porte en faux parce qu'en réalité, alors bien évidemment pas sur l'aspect la convergence multiple qui explique la colère d'aujourd'hui, ça je suis bien évidemment d'accord, mais attention, les problématiques sont liées. On peut pas régulièrement pointer la question du financement des retraites et en même temps appeler à des exonérations de cotisations et pas de charges. Alors que ça, bien évidemment, ça tarit le budget de la sécurité sociale. On a 75 milliards d'exonération de cotisations. Et après, derrière, il y en a qui viennent pleurer. Ah ben, on a 12 milliards de déficit en 2027. Est-ce qu'on peut être un peu cohérent? Figurez-vous que si vous êtes en train d'arroser votre jardin, si je ferme le robinet, ah ben, il y aura plus d'eau. Et si je viens m'en étonner, c'est que je vous prends pour des idiots. Donc, effectivement, on ne peut pas appeler en permanence à l'exonération de cotisations sociales patronales et en même temps venir s'inquiéter du déficit. Et effectivement, nous, on dit encore une fois, on dit effectivement pour la CGT, parmi la multiplicité des solutions pour la retraite, parce qu'il y en a un paquet, pour effectivement équilibrer les systèmes de retraite, la première des pistes, c'est le salaire. Je l'ai dit, aujourd'hui, on a effectivement une inflation à 5%, c'est un score, et encore, c'est le seuil, je suis gentil, et effectivement, augmenter les salaires à hauteur de 5% pour rattraper l'inflation, c'est 9 milliards pour les caisses de retraite. Alors, ouais, mais il faut le dire aux Français, c'est 9 milliards pour les caisses de retraite.
On va parler des carburants après.
Mais qu'abordent jamais les syndicats, parce qu'évidemment, ils n'ont pas de prise sur cette piste socialement, c'est celle de la capitalisation. Et je regardais un chiffre, et la société française est traversée d'incroyables contradictions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je regardais un chiffre. Les plans d'épargne retraite dans ce pays, notamment pour les nouvelles générations, sont en train d'exploser. On est passé de 2 millions de plans d'épargne retraite à 3 millions en un an. Ça veut dire quoi? Le PER, c'est quoi? C'est un produit financier qui vous permet d'épargner pour votre retraite, suivant vos moyens d'épargne, et de sortir en rente ou en capital. Ben, c'est la définition de la capitalisation, monsieur Hamar. Oui. Donc ça veut dire que les nouvelles générations, même si elles défendent, même si dans vos cortèges, les Français défendent là le système par répartition, ils sont en train de mettre en place pour eux-mêmes et de manière individuelle de la capitalisation. Or, c'est un sujet que les syndicats ne veulent jamais aborder, parce qu'ils ont l'impression que ça détruirait la répartition. Alors pour moi, ça viendra au contraire en appui et en complément. Et surtout parce que les syndicats, évidemment, sur la capitalisation individuelle, n'ont aucune prise sociale.
Ils sont taxés ou pas, les plans? Ils sont taxés.
C'est une piste de financement pour le système par répartition.
C'est
deux choses différentes.
C'est très intéressant.
Ça, c'est une autre chose.
Un million, monsieur Hamar, un million de PER ouverts en un an.
Bien évidemment, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que quand vous demandez, quand vous faites des assemblées générales, où il y a bien plus que des syndiqués d'ailleurs, quand moi j'en ai fait encore une récemment dans mon établissement, bien sûr que les gens vous disent, ils sont bien conscients du fait à la fois qu'on les fait travailler de plus en plus longtemps et qu'en même temps, les pensions effectivement sont de plus en plus chiches. Donc bien sûr que certains sont en train de réfléchir à ça, parfois le mettre en œuvre. Mais c'est
Monsieur
en
Hamar.
Contradiction directe avec
Monsieur
le
Hamar.
Système par répartition.
1200 euros bruts pour tout le monde, c'est
Pardon
la réforme. 1200 euros bruts pour tout le monde, c'est la réforme.
1000 euros nets. Oui,
non, mais, enfin, non, non, mais
oui, c'est
dire.
Ça, c'est 1200 euros bruts comme plancher.
Brut.
Excusez-moi.
C'est
et sur une carrière, Laurent, sur
une carrière. Il y a beaucoup de femmes qui sont en dessous.
Sur une carrière complète
beaucoup
et il y a 30% des retraités en basse pension qui ont une carrière complète.
Monsieur mais donc Hamar, c'est pas contre, du tout en contradiction avec le système par répartition.
Par contre, si je peux me permettre d'aller au bout de la réflexion,
allez-y.
Excusez-moi, parce que ça,
les fonctionnaires,
la
système
de capitalisation qu'ils ont nié.
Les fonctionnaires, ils ont
allez-y,
un fonds
allez-y,
capitalisation.
Je ne comprends rien après. Allez-y.
Je réponds à ce que vous dites. Monsieur Hamar, s'il vous plaît, laissez-moi répondre.
Mais juste
vous êtes en train de me dire.
Répondez à ma question et à ma
réponse. Vous m'en avez posé une, vous m'avez interpellé. Laissez-moi vous répondre. Je vous réponds. Alors, c'est incroyable.
Pardon, je me tais pendant au moins 5 minutes.
Alors, donc, ben non, ça va être très rapide. Nous, on est opposés au système, effectivement, par capitalisation. D'abord, parce qu'il y a plein de gens. Quand on est à découvert le 5 du mois, on peut pas se permettre ça. Et notre système, c'est le système par répartition. Par contre, il y a des possibilités qui s'approchent. Par exemple, nous, on dit, mais pourquoi on n'élargit pas l'assiette de cotisation à la participation et à l'intéressement, qui eux, ont décuplé en 20 ans? Ah oui, là, il y a une manne d'argent qui n'est pas soumise à cotisation. Mais venir mettre le verre de la capitalisation dans le fruit de la répartition, Pourquoi vous dites pas aux Français que
les fonctionnaires, ils ont le droit à la capitalisation, eux, avec le fonds, avec la préfonds? Pourquoi est-ce que les fonctionnaires ont le droit?
Mais nous, on est attachés, au système de la répartition. Après, c'est pas nous qui avons mis en place ça, monsieur.
Il s'agit de soulager la répartition pour plus avoir des réformes, des
retraites. Mais on a la possibilité, on vous propose des solutions alternatives au financement, mais vous en voulez pas.
Geoffroy, un peu de hauteur.
J'aurais bien un peu de hauteur. Ah oui, la mission compliquée. Non, mais il y en avait de la hauteur, c'est intéressant.
Mais c'est passionnant.
Je pourrais poser plein de questions sur tout ce qui vient d'être dit, mais il y en a une quand même qui me taraude en vous écoutant depuis tout à l'heure, c'est cette espèce d'énigme démocratique devant laquelle on est. C'est-à-dire que si, Karim expliquait tout à l'heure les conditions de succès de la mobilisation, qui je pense d'ailleurs vont être réunies, ça va durer, il n'y a pas de raison que ça change, etc. Vous avez en face de ça, il ne faut jamais l'oublier, un gouvernement qui lui aussi a son intérêt, même minoritaire, même à 30% d'opinion favorable sur le sujet de la retraite, exactement comme au moment des Gilets jaunes où il était extrêmement minoritaire, a flatté son électorat, sa base sociologique, les personnes plus âgées, les plus aisés aussi également, il a intérêt à tenir et à s'acheter, vous savez, à peu de frais, le costume de « on a réformé, regardez, on l'a fait alors que personne n'ose le faire », etc. Donc vous avez forcément un dialogue de sourds qui va se mettre, qui s'est déjà mis en place en réalité, entre la rue, la majorité des Français, et un gouvernement minoritaire, mais qui a intérêt pour les échéances électorales à venir, et pas forcément la présidentielle, parce que je sais que Macron ne sera pas candidat, et les élections intermédiaires notamment, et éventuellement la succession, etc., a intérêt à tenir. Donc ce dialogue peut durer extrêmement longtemps. Et en fait, il pose au fond pour moi une question, mais démocratique, une vraie, je prétends pas avoir la réponse. C'est que vous avez aujourd'hui une majorité de gens qui est contre cette réforme. Donc, si on suivait la voie proposée notamment par le RN du référendum, elle ne passerait pas. Ce serait probablement la voie la plus démocratique puisque les gens auraient directement leur avis à donner. En même temps, on a eu il y a 6 mois une élection présidentielle où on a interrogé les Français sur le choix pour la conduite du pays. Et en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a élu Macron finalement? Puisque manifestement, son projet.
Toujours sur ça, mais la question.
C'est une vraie question, Karim.
Non! Tu as pas élu Macron pour faire la réforme des retraites. Pour beaucoup, tu as élu Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Dans une approche globale. Et là, tu nous sors de l'approche globale, la réforme des retraites. C'est Emmanuel Macron qui aurait dû comprendre qu'il a été élu aussi avec des voix qui n'étaient pas favorables à la retraite à 64 ans. C'est lui qui fait aujourd'hui, c'est lui qui n'a pas entendu le message. C'est pas les électeurs qui ont voté pour lui.
Ça veut donc dire que la politique du barrage à Marine Le Pen est aujourd'hui un obstacle à l'exercice normal et correct de la démocratie, puisqu'on en arrive à cette situation.
Et c'est Emmanuel Macron qui crée cet obstacle. Parce qu'il n'intègre pas au-delà des voix du premier tour, ceux qui n'ont pas voté pour lui au premier tour et qui se sont rabattus sans pour autant donner l'aval à cette réforme de retraite.
Je crois,
tu vas pas accuser les Français donc d'une non prise en compte du débat démocratique du président de la République lui-même.
Alors si,
c'est lui qui s'est fait de la démocratie.
Il y a une incohérence sur le plan démocratique. C'est si les gens se prononcent pour lui à ce moment-là, il faut qu'ils assument ce qui va avec. Et il a jamais dit qu'il allait pas faire la réforme des retraites pour être élu.
Il doit assumer les voix qui ne viennent pas de son camp.
Il a jamais dit 65, 64 ans entre les deux tours. Voilà. Il a déplacé le curseur.
Je pense que si aujourd'hui Emmanuel Macron est en telle difficulté politique, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a une petite différence par rapport à 2017, il n'a même pas de majorité à l'Assemblée. Donc il est minoritaire, il n'a qu'une majorité relative, et pourtant il persiste effectivement dans ce jusqu'au-boutisme, alors que dans son propre camp, il y a des gens qui lui ont dit « ne va pas sur la réforme des retraites ». Il y a un responsable à cette situation, c'est Emmanuel Macron, et ce faisant, ce qu'il fait est extrêmement grave, parce qu'il approfondit la crise démocratique. Parce que il y a des millions de Français qui ont voulu faire barrage à Marine Le Pen, dans un réflexe démocratique. Et aujourd'hui, lui fait passer le message que, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, m'avez élu. Donc maintenant, faut accepter la soupe de foie de morue.
En 30 secondes, si on prolonge votre raisonnement, ça veut dire que la personne qui est élue à chaque fois face à Marine Le Pen ou à ses successeurs quand elle en aura, il n'a pas le mandat pour exercer aucun programme. C'est-à-dire que j'ai battu Marine Le Pen. Maintenant, je ne peux rien faire puisque vous m'avez pas élu pour faire quelque chose.
On est dans le compromis.
Ça s'appelle le compromis.
La culture du compromis, c'est ce qu'on fait tous les jours sur ce plateau de Punchline. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à parler de cette réforme des retraites, de ce front syndical uni. On parlera aussi de l'Ukraine avec cette mise en garde de la Russie, puisque une partie des alliés ont décidé de livrer des chars à l'Ukraine. Attention, c'est une décision dangereuse. On en débat dans un instant dans Punchline. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Les alliés franchissent un nouveau cap en fournissant des armes lourdes à l'Ukraine, c'est-à-dire des chars, pour empêcher l'avancée des troupes russes. Le président Joe Biden doit s'exprimer dans un instant pour évoquer, lui, l'envoi de chars Abrams. La ligne rouge est-elle en train d'être franchie vis-à-vis de la Russie qui dénonce des décisions dangereuses? On va en débattre ce soir. La réforme des retraites, va-t-on vers l'escalade? Les syndicats unis appellent à multiplier les mobilisations sur le terrain ou dans les entreprises d'ici au 31 janvier. Certaines actions commencent demain dans les raffineries. Les lycéens appellent à descendre dans la rue. Peut-on encore éviter le blocage ou est-ce trop tard? La réponse à 18h30 de Laurent Pietrasch.
Tomaszewski, l'ancien monsieur retraite d'Emmanuel Macron. Voilà pour des grandes lignes. On en débat dans un instant après le rappel des titres de l'actualité. h sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. La colère des syndicats qui restent vent debout contre la réforme des retraites. Les principales organisations ont donné une conférence de presse. Écoutez Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.
Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger et rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale.
Dans les transports à la gare de l'Est, le trafic a repris progressivement aujourd'hui après l'incendie qui a endommagé des câbles électriques dans la nuit de lundi à mardi. Retour à la normale pour le trafic prévu dès demain matin. Du côté de l'enquête, elle se poursuit pour tenter d'y voir plus clair dans cet acte qualifié par la SNCF de sabotage. C'est le plus faible niveau de chômage depuis 2011. Le nombre de demandeurs d'emploi est en nette baisse de 3,6% au quatrième trimestre 2022 par rapport au trimestre précédent. Cela fait 114 400 inscrits en moins. Il y a désormais 3,05 millions de chômeurs selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail. Une jeune étudiante grièvement blessée sur le campus universitaire Paris-Cité, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. La victime a été agressée à l'arme blanche alors qu'elle sortait d'un ascenseur. Elle est actuellement entre la vie et la mort. Le suspect qui a d'abord pris la fuite a été interpellé quelques minutes plus tard. Enfin, je vous le disais, l'Allemagne donne son feu vert pour la livraison de chars lourds à l'armée ukrainienne. Une décision que Moscou juge dangereuse. De son côté, le chancelier allemand assure vouloir empêcher une escalade dans le conflit. Écoutez la réaction des Ukrainiens après l'annonce du chancelier allemand de livrer donc ces chars.
Des gens meurent tous les jours. Vous comprenez que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes sans l'aide de nos partenaires. Nous voulons obtenir ces chars le plus vite possible.
L'équipement lourd aidera quand il y aura confrontation. L'équipement lourd donné par nos alliés aidera beaucoup. Je n'en doute même pas.
Je pense que ce sera plus facile pour nos gars maintenant. Ils seront protégés et ne prendront pas autant de risques.
Voilà pour la situation en Ukraine. On va l'évoquer tout de suite avec le général Bruno Clermont qui est en ligne avec nous, consultant défense. À l'instant, général, Joe Biden annonce l'envoi de plus d'une trentaine de chars Abrams en destination des Ukrainiens. Est-ce que la France reste très prudente? On va écouter Elisabeth Borne dans un instant. Est-ce qu'on est face à une nouvelle phase d'escalade, selon vous, ou pas?
On est face à une évolution graduelle du type de matériel qui sont livrés aux Ukrainiens en fonction du déroulé de la guerre et du rapport de force de la guerre. Actuellement, les Ukrainiens, qui avaient au départ 2000 chars, ont perdu un grand nombre de chars. Et on voit bien que les Russes sont en train de s'organiser pour une contre-offensive et que les Ukrainiens ont perdu l'objectif de reprendre le territoire conquis par les Russes. Pour ça, il va falloir lancer une offensive terrestre. Pour une offensive terrestre, il faut des chars lourds, à la fois pour lancer l'offensive terrestre et éventuellement pour empêcher une contre-offensive russe. Donc oui, on peut la demande, d'un point de vue militaire, la demande des Ukrainiens est légitime et les Alliés ont décidé de la satisfaire avec, on va le voir finalement, une grande quantité de chars qui pourraient être livrés dans un temps raisonnable, c'est-à-dire entre 2 et 3 mois.
Mais le danger, général Clermont, c'est qu'on franchisse la ligne rouge. Moscou dénonce une décision dangereuse. Est-ce que ça ne nous emmène pas vers la co-belligérance?
Alors la décision, toutes les décisions, c'est normal que Moscou réagisse de cette manière. En réalité, il y a toujours la véritable ligne rouge. Elle est rappelée chaque fois que les Occidentaux livrent de l'armement. Ils lui attribuent le qualificatif de défensif. Alors qu'un char lourd, ce n'est pas défensif. Un char lourd, c'est défensif si on s'en sert pour empêcher les Russes de conquérir l'Ukraine. Si les Ukrainiens décidaient de se servir de ces chars lourds pour attaquer les forces russes en Russie, ça deviendrait offensif. Et ça, c'est pas possible du point de vue des Occidentaux. Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, on passerait à un véritable palier qui serait de porter la guerre en dehors des frontières de l'Ukraine. Donc, la guerre en Russie avec du matériel occidental. Et ça, c'est quasiment une escalade garantie. Donc là, on reste quand même dans quelque chose qui peut être maîtrisable et maîtrisé, c'est maintenir le conflit à l'intérieur des frontières de l'Ukraine, un conflit qui sera effectivement de plus en plus violent.
Et une dernière question, en combien de temps on peut livrer, nous, des chars Leclerc, si la décision est formellement prise, hein? La Première ministre ne l'a pas dit très clairement cet après-midi à l'Assemblée, au Sénat.
En ce qui concerne la France, effectivement, ce n'est pas décidé, puisqu'on avait déjà livré des chars légers, qui sont des annexes d'ICRC, avec quand même des canons de 105 mm. Les Allemands auraient annoncé qu'il fallait 3 mois. Dans 3 mois, les chars seraient disponibles. Il est possible que ce soit un petit peu moins. Former un équipage de chars, c'est compliqué. Mais il y a beaucoup de tankistes en Ukraine, puisqu'ils avaient 2000 chars avant le début de la guerre. Donc, être capable de transformer un tankiste opérationnel sur un char soviétique, sur un char occidental, ça peut effectivement prendre 2 mois, avec toutes les questions de maintenance, les questions de logistique qui sont vraiment indispensables. Donc, avant 2 mois, ça paraît peu probable. À partir de 2 mois, c'est possible. Et c'est effectivement le créneau, la fin de la rapoustita, la fin de cette mauvaise météo, où les offensives terrestres de grande envergure pourraient reprendre.
Okay, parfait. Merci. Restez avec nous, Général Clermont. On est avec Éric Revel. Nous sommes avec Marc Toitier, économiste, avec Karim Zeribi, consultant CNews, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Éric Revel, on est dans une nouvelle étape, là.
Général donne l'argument clé. C'est qu'il dit un char lourd, ça peut servir à défendre, mais ça peut servir à attaquer. Qui nous dit que une fois que c'est Abrams américain, c'est Challenger anglais ou c'est Leclerc français
ou les Léopard,
Léopard 2 allemands ont été livrés, qui nous dit que ils vont pas passer d'une phase défensive à offensive. C'est là où on est à mon sens dans un vrai tournant. Et puis juste mon général, il me semblait qu'il y avait 12 chars Leclerc qui étaient prépositionnés en Roumanie. Quand même, qui avait été prépositionné en Roumanie. Donc ces chars-là, Leclerc, si le président de la République en donne l'ordre, ils peuvent arriver assez vite sur le théâtre d'opération.
Alors a priori, ces chars sont prévus de renforcer, de protéger la Roumanie, pas d'intervenir au profit des Ukrainiens. Donc ça serait d'autres chars qui devraient être envoyés à partir de la France.
Marc Toitier.
Oui, moi je trouve qu'on a quand même une escalade qui est assez incroyable. C'est-à-dire que moi je me souviens, il y a un an, on nous disait, soi-disant, les spécialistes de la géopolitique disaient non mais il y aura pas de guerre, tout ira bien. Bon, on a vu ce qui s'est passé ensuite. Et là on dit bon, ça va se calmer. Moi ce qui me surprend quand même, c'est qu'on ne parle plus du tout de l'enjeu diplomatique. C'est-à-dire qu'on a complètement abandonné. On s'est dit peut-être qu'il faudrait peut-être arrêter, un cessez-le-feu, temporiser. Et là, moi, je trouve qu'il y a une escalade assez incroyable. Et d'ailleurs, je reviens un peu sur l'économie, c'est qu'effectivement, on parlait de la baisse d'inflation avec la baisse des prix des matières premières. Si ça s'intensifie, ben c'est clair que les matières premières vont repartir à la hausse, qu'il y aura encore plus d'inflation et qu'il y aura encore plus de difficultés économiques chez nous, sans parler des problèmes des retraites. Mmh. Donc, on joue à un jeu extrêmement dangereux. Et ce qui m'inquiète, c'est que personne n'arrive aujourd'hui, alors c'est peut-être pas à cause de nous, arrive justement à trouver un terrain d'entente, au moins pour un cessez-le-feu, pour une négociation. Et là, il y a une sorte de surenchère. Effectivement, je suis d'accord avec Eric, qui nous dit que derrière, ça ne va pas aller plus loin et que l'Ukraine ne va pas finalement attaquer la Russie.
Général, clairement, il n'y a pas de pourparlers en ce moment. On est bien d'accord. Hein, tout se passe sur le terrain, dans les offensives et les contre-offensives.
Oui, il y a eu une espèce de petite fenêtre d'opportunité au mois de décembre où on parlait pas mal de négociations avec le plan de paix du président Zelensky. Et puis ça vraiment a disparu et on est rentré dans une nouvelle phase dans laquelle on se prépare plutôt à une offensive contre-offensive au printemps, c'est-à-dire dans 2 mois. Donc le rendez-vous, c'est dans 2 mois. Et en attendant, chacun va essayer de gagner du terrain sur l'autre. Mais effectivement, la question des négociations a vraiment disparu du paysage.
Les grandes manœuvres sont en ce moment du côté des alliés, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, pour pouvoir fournir ces chars aux Ukrainiens. 31 chars Abrams, ils sont bien ces chars par rapport à nos chars Leclerc, général, en un mot?
Écoutez, c'est à peu près la même génération de chars. Les chars Abrams M1, ils sont un peu plus lourds. Ils ont un peu plus de technologie. Ils sont mis en œuvre par 4 combattants au lieu de 3 combattants, mais c'est grosso modo la même technologie. Effectivement, ils sont très très supérieurs aux chars ukrainiens et évidemment aux chars russes qui se trouvent n'avoir finalement sur le champ de bataille en Ukraine. Ils ont une très grande quantité de chars en réserve, mais sont quand même plus des chars de type T-72 des années 70 ou 80 que des chars aussi technologiques que les chars Abrams, Leclerc, Challenger et Léopard.
Karim, un tout petit mot.
Oui, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai le sentiment que la voie européenne, elle ne fait que suivre, je dirais, une forme d'influence américaine. Les Américains donc envoient 31 chars, donc les Allemands vont en envoyer, les Espagnols vont en faire autant, et nous autres allons être quasiment obligés de suivre, pour pas être, je dirais, en décalage avec la dynamique, si je puis parler ainsi, qui a été lancée. Ce général, est-ce que vous ne pensez pas que dans cette guerre, depuis le départ, la voie européenne manque, et nous sommes toujours dans la roue des Américains qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous à ce que les choses cessent et cessent rapidement. Donc, pouvons-nous faire autrement?
Il est clair que les patrons sont les Américains. Ils sont patrons dans l'OTAN, ils sont patrons en Ukraine, mais il faut aussi reconnaître que l'effort des Européens reste considérable. Qui aurait imaginé il y a un an que l'Allemagne livrerait des chars Léopard pour faire la guerre contre les Russes en Ukraine. Enfin, il se passe des choses assez inimaginables. Et sur ce point, d'ailleurs, des chars ukrainiens, des chars allemands en Ukraine, le chancelier Scholz a une petite victoire. Parce que quand même, il a accepté de livrer ses chars Léopard 2 à l'Ukraine à la condition que les Américains livrent des Abrams, ce que les Américains ne voulaient pas faire. Donc je pense qu'il est important que lorsqu'on monte en gamme, lorsqu'on monte en température dans ce conflit, qu'il n'y ait pas de déconnexion entre les Américains et les Européens. Donc je pense que ce n'est pas plus mal qu'il y ait à la fois des chars Léopard, et puisqu'il y a des chars Léopard, des chars américains également sur ce théâtre.
Merci beaucoup, Général Clermont, de nous avoir éclairé sur cette décision donc, des alliés occidentaux de fournir des chars, de l'armement lourd aux Ukrainiens en perspective de la contre-offensive qui se déroulera normalement au printemps. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera de l'inflation. On l'évoquait avec vous, Marc Touati. Évidemment, les choses ne vont pas s'arranger. On parlera aussi, bien sûr, de la réforme des retraites avec ce front syndical uni et des actions en pagaille d'ici le 31 janvier. À tout de suite. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Geoffroy Lejeune, avec Eric Revel, Karim Zerebi et Marc Touati, économiste. On va parler de l'inflation. Alors, je sais que c'est votre dada, Marc Touati. Vous en parlez beaucoup dans Reset 2, Le Monde d'après, votre livre. Mais c'est vrai que là, on est en plein boom de l'inflation. On n'en voit pas la fin parce que on nous la prédisait pour le mois prochain, puis ça ne va pas être avant le début du printemps, voire la fin du printemps. Et on a des petits retraités, on parle beaucoup des retraites, aujourd'hui qui ne s'en sortent pas. Et l'inflation accroît évidemment leurs grandes difficultés. On va écouter ce reportage d'Antoine Estève et Jérôme Rampenou et puis on en débat ensuite.
Dans cet hypermarché de la banlieue de Bordeaux, c'est le rayon idéal pour traquer les bonnes affaires. Des produits frais, dont la date limite de vente approche, sont bradés. Les chefs de rayon en apportent toute la journée.
Ils prennent les produits qui sont en date de péremption courte. On a un système informatique qui vient flasher le produit et sort une remise qu'on applique ensuite. Ça va de 20 jusqu'à 40, 50%. Ça dépend en fait effectivement du produit et de la rotation.
On fait des économies parce que c'est quand même 20 ou 30% de moins.
L'heure actuelle, c'est vraiment des petites économies, quoi. Mais bon, c'est tout bon à prendre.
Ce couple de Libourne perçoit le minimum vieillesse. Chaque produit est sélectionné sur le catalogue en fonction des meilleures promotions de la semaine.
Je fais ma liste, je prends le livre ou je vais sur Internet, je regarde et je fais ma liste, ce qui m'intéresse, à condition que ce soit bon et pas cher.
Luce et Marcel se partagent une retraite de 700 euros. Chaque dépense est comptée au centime près. Ici, ils profitent des offres de dernière minute de la poissonnerie.
On va prendre que du poisson en promo. Et on cuisine et on a un congélateur aussi. Les retraites, elles ne sont pas élastiques et puis tout est beaucoup plus cher. On a fait quand même 60 km pour venir ici. Hein.
D'après plusieurs distributeurs, la chasse aux promotions et aux produits discount connaît une croissance sans précédent. Ces rayons ont connu une hausse de chiffre d'affaires de 25% depuis deux ans.
Marc Touati, l'inflation se cumule à toutes les autres difficultés économiques des Français. Hein. Vraiment, on a l'impression que la coupe est pleine.
C'est vraiment un drame parce que surtout, on n'est pas habitué. C'est-à-dire que sur les 20 dernières années, l'inflation en France est autour des 1% en moyenne par an. Donc on pensait que l'inflation était complètement morte. Là, elle revient. Et puis surtout, ce chiffre d'inflation à entre 5 et 6%, évidemment, il est factice.
Sur l'alimentation, on est à combien?
Évidemment, on est à plus de 20%. Donc on a aujourd'hui un panier de biens, celui de la ménagère, mais évidemment, on n'achète pas tous les jours des voitures ou des ordinateurs. Par contre, on achète tous les jours de l'alimentaire, de l'énergie. Et donc quand on prend un ménage modeste, par exemple, pour qui le poste alimentation et énergie est beaucoup plus élevé que pour d'autres types de ménages, et bien là, on a déjà une inflation entre 12 et 15% en moyenne. Donc c'est particulièrement élevé. Donc ce qui veut dire que pour beaucoup de Français qui sont déjà borderline, comme on dit, à la frontière, où malheureusement ils sont à 10, 20 euros près, évidemment, ça n'arrange pas les choses. Et alors, là où la grande distribution également, parce que nous disons on souffre énormément, on voit bien qu'on peut faire des prix.
On aura Michel Edouard Leclerc sur le plateau demain.
Aujourd'hui, il y a encore une marge pour réduire effectivement certains prix avec la concurrence, sauf que comme en France...
Ils disent que c'est les industriels qui les exprimentent.
Ouais, on dit l'autre,
ils augmentent la nourriture pour chien et chat, il n'y a pas de raison.
Moi, je peux vous dire que les industriels n'augmentent pas autant que ce qui se passe également dans la grande distribution, parce que finalement, il n'y a que 5 réseaux de distribution. Donc, c'est ce qu'on appelle un oligopole. Ça veut dire on peut plus ou moins s'entendre. Ce n'est pas une très grosse concurrence. Par contre, il faut que les Français fassent agir cette concurrence, aller voir différents magasins et autres. Et je pense qu'il y a encore une marge où on peut négocier entre guillemets et avoir une baisse de cette inflation. Alors la bonne nouvelle, c'est que normalement elle devrait baisser à partir de printemps-été 2023.
Plus personne ne s'avance sur une date maintenant.
Non, mais bien sûr, non, mais forcément, parce qu'on a eu un déni de réalité. Rappelez-vous, les dirigeants français, européens disaient non, mais l'inflation, ça y est, c'est temporaire, c'est fini, tout va bien dans le meilleur du monde. Sauf que là, on est sur le sujet de tout à l'heure. Si la guerre dure encore en Ukraine et que, parce que là, attention, on a eu un peu moins d'inflation ces derniers mois parce que les prix des matières premières ont baissé, notamment l'énergie, l'alimentaire. Mais si ça repart à la hausse, si la guerre repart et que les prix énergétiques repartent à la hausse, l'inflation également va remonter nettement. Donc malheureusement, elle n'est pas complètement gagnée, hein, cette bataille contre l'inflation, loin s'en faut. Et donc il y a encore malheureusement des lendemains difficiles. Donc il ne faut surtout pas mentir comme l'ont fait trop de dirigeants français en disant « ça y est, tout va bien, tout est sous contrôle
». Ils sont plantés quoi.
Parce que le problème c'est qu'après on fait le chèque. Alors là on fait des chèques mais ça ne suffit pas. Il faut réagir effectivement en amont. En réduisant, par exemple, si on veut donner du pouvoir d'achat, on réduit la pression fiscale qui pèse sur les ménages, que ce soit la CSG ou les charges, etc. Là, vous donnez du pouvoir d'achat sans que ça coûte pour les entreprises. Parce que si ça coûte pour les entreprises, après, ils vont répercuter sur les prix de vente, la boucle inflation salaire, on s'en sortira jamais.
Qu'est-ce qui veut réagir, Karim, un tout petit mot là-dessus?
Ce que je veux dire, c'est que les Français veulent pas des petits chèques, ils veulent vivre dignement de leur travail. Et il va falloir qu'à un moment donné, structurellement, donc sur le plan politique, on prenne en compte cette réalité-là. Ils veulent vivre dignement de leur travail. Alors, et aujourd'hui, ils n'en ont pas la possibilité parce que la pauvreté gagne du terrain pour les travailleurs. Pas pour les inactifs, pas pour ceux qui vivent de revenus sociaux seulement, mais pour les travailleurs. Deuxièmement, que ça vienne de la grande distribution des industriels, le français consommateur qui a des fins de mois difficiles, il s'en fout. Donc que l'État régule et se débrouille avec soit les grandes surfaces, soit les industriels, mais mette un peu d'ordre dans cette pagaille-là. Parce que quand on passe à la caisse, pour le portefeuille des Français les plus en difficulté, c'est la même chose. Troisièmement, je pense qu'aujourd'hui, il y a une corrélation, j'ai envie de dire, un peu de phénomène, qui fait que les Français sont très inquiets de l'avenir. Très inquiets de l'avenir, iront encore moins vers la consommation, parce qu'on sait très bien, Marc Toiti en parle souvent, que l'état d'esprit, l'état de confiance joue beaucoup. Or aujourd'hui, il y a cette crise de confiance, parce que le politique nous annonce que l'inflation va durer jusqu'en mars, n'importe quoi, et puis finalement on se rend compte qu'en mars on nous dit ça va durer 6 mois de plus, donc les prévisions ne tiennent pas. Donc il va falloir qu'à un moment donné, on ait un discours clair, qu'on ait un état régulateur, et qu'on arrête de faire des chèques qui sont des petites aides, mais qu'on se penche sur la vraie question que j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'on veut fabriquer des travailleurs pauvres dans notre société ou est-ce qu'on veut que le travail soit payé dignement? Ça, c'est un sujet que le gouvernement doit aborder structurellement.
C'est un sujet majeur.
Majeur pour les Français.
Et là, on perd du temps sur les retraites.
Les Français ne veulent pas les assister, contrairement à ce que certains prétendent.
Non. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il faut trouver un moyen de rendre de l'argent aux Français. Et je dis bien rendre parce qu'en réalité, l'État leur en prend énormément. Mais malheureusement, et on a eu cette discussion tout à l'heure dans la première heure, mais en fait, à chaque fois, dans cette équation, on se heurte à la même chose. C'est si l'État prend moins aux Français, si par exemple la CSG baisse ou si en tout cas la pression fiscale est un peu soulagé sur les ménages, sur les travailleurs, etc. Il va falloir que ça va ensemble, que l'État ne fasse moins de choses. Et à ce moment-là, la réflexion qu'il faut avoir, et pour le coup, Emmanuel Macron s'y était engagé dans son premier quinquennat. Il a été un peu plus discret dans le deuxième parce qu'il n'avait pas un bilan exceptionnel. Mais il faut réussir à repenser le périmètre de l'État, ses missions et l'efficacité de la dépense publique. Et là, je pense honnêtement que c'est la seule piste qui n'a pas été évoquée. On a souvent des débats, vous savez, sur l'état de l'hôpital, sur l'état des services publics, etc. Tout le monde est d'accord pour dire que ça ne va pas, que les gens disent qu'il manque de beaucoup de choses. Mais en réalité, il manque pas de moyens, il manque d'organisation, il manque de lutte contre la suradministration, il manque de beaucoup de choses. Mais et c'est un sujet, alors pour le coup, sans aucune arrogance quelconque, je pense que c'est un sujet politiquement qui est extrêmement compliqué. Toucher à la fonction publique, c'est extrêmement compliqué. Ça implique un travail herculéen, au sens des 12 travaux d'Hercule. Je pense que ça sera long, compliqué, fastidieux, et ça ne prendra pas qu'un mandat à la personne qui s'y attaquera. Mais par contre, ça devient urgent, car je ne vois aucun autre moyen aujourd'hui que pour soulager les Français.
Alors, je voudrais qu'on parle aussi des carburants, parce que la fin de la ristourne à la pompe a fait que les budgets explosent, là encore. Là, on est quasiment à 2 euros le litre, je crois, pour certains carburants. Écoutez juste quelques réactions de Français à ce sujet.
L'essence avance, je faisais le pain pour 50 euros, maintenant j'arrive à 80. J'ai 30 euros de plus par plein.
On n'a pas trop le choix, comme on fait de la prestation de service. On a gardé nos habitudes, par contre, on répercute le prix sur les clients.
On n'a pas le choix, forcément, donc on fait avec. Hein. C'est le prix, s'il est à 2 ou 3 ou 4, peu importe, on est pris par ça, en fait.
On est obligé de s'adapter, donc c'est une dépense qu'on prend plus dans le ménage, et puis voilà.
Éric Revel, ça va continuer à monter, ça, les carburants?
L'inflation rogne le pouvoir d'achat des Français. Le prix d'énergie, on l'avait presque oublié, mais ça devient un fléau quasiment national. Alors, il y a deux choses qui peuvent faire baisser peut-être le prix de l'essence. Un, c'est si l'OPEP accroissait sa production de pétrole, mais ils n'ont aucun intérêt à le faire, puisque la croissance, si on prend la croissance française, va plutôt se réduire. Ça veut dire qu'on consommera moins, on consommera moins de pétrole. Donc si ils augmentent leur production de pétrole, c'est le prix du baril qui va s'effondrer, et donc leurs recettes budgétaires à eux. Donc ils n'ont aucun intérêt à le faire. Maintenant, il y a quand même une question, puisqu'on parle de l'État et avant les grandes réformes, il y a quand même une question de TVA quand même. 60%, c'est de l'impôt. Est-ce que l'État ne pourrait pas faire un geste? Et puis alors, moi, ce qui me sidère aussi, je ne sais pas si vous avez vu, le chèque qui a été mis en place de 100 euros, il y a quelques semaines, en fait, il y a
pour
que
30, hein
oui, il y a que 30% des gens qui ont le droit, qui ont demandé sur le site de Bercy ce chèque.
Ils ne le savent pas.
Alors, ils ne le savent peut-être pas, donc il faut aussi le rappeler, mais
Est-ce que c'est pas une usine à gaz pour l'obtenir?
Alors, non, je crois qu'ils ont simplifié sur le site,
si mais
le
numéro vert, c'est, oui. ça
les gens ne le savent pas, hein, c'est ça, Marc.
Enfin, je sais pas si Marc partage mon analyse sur le prix du baril.
Tout à fait. Alors, il y a un problème, par contre, pour nous, les Français, enfin, les Européens, on va dire, sur le prix du pétrole, c'est qu'il y a quelques mois, l'euro baissait. Donc, quand l'euro baisse, le prix des produits importés augmente. Donc, c'est pourquoi le pétrole était plus cher. Là, il y a un problème, c'est que l'euro remonte. Et pourtant, le prix du baril, enfin, du pétrole que nous payons.
Alors qu'on devrait baisser.
Exactement. Ben oui, donc là, encore une fois, il y a une sorte d'opacité quand même sur ces prix de la grande distribution, au sens large, que ce soit les biens alimentaires ou le pétrole. Donc, je suis d'accord, bien sûr, avec Eric, qu'il faut réduire cette pression fiscale, et là, on est tout à fait d'accord. Mais l'enjeu, c'est que là, on a autant, il y a quelques mois, on dit, bon, ben c'est normal, l'euro baisse, donc le pétrole monte, le pétrole qu'on paye à l'essence, quoi, chez nous, à la pompe. Mais là c'est, ça n'a pas lieu d'être. Donc, si vous dire qu'il y a quand même, là aussi, un problème.
On bénéficie des phénomènes structurels. Oui, c'est ça,
quand ça va mal, on paye les pots cassés, puis quand ça va mieux, on n'a pas les bénéfices.
Non, et juste, je voulais ajouter, parce qu'il y avait ce sujet sur ces gens qui ont du mal à remplir leur caddie, même modestement, mais ce sont souvent les mêmes, c'est-à-dire que les gens qui habitent en région, qui ont besoin de deux voitures, parce qu'ils ont deux jobs, souvent pas très bien payés, ce sont eux qui prennent de plein fouet l'inflation des produits alimentaires, 60 km, et ce sont eux qui prennent aussi de plein fouet, vu la modestie de leur pouvoir d'achat, l'augmentation du prix de l'essence. Donc,
Le mouvement des gilets jaunes est parti sur cette base-là, exactement. Il faut le rappeler quand même.
Exactement.
C'était des gens plutôt qui étaient en périphérie de métropole, qui ont décidé de pousser un coup de gueule et de se réunir sur des ronds-points parce qu'ils estimaient effectivement que cette augmentation du carburant était insupportable pour eux.
Non mais là on touche le du problème, c'est-à-dire qu'en fait c'est la classe moyenne justement qui est en train de s'appauvrir. Ouais. Pour moi c'est ça les gilets jaunes, c'est qu'effectivement des Français qui se disent bon finalement moi je suis la classe moyenne, je demande pas trop, je me plains pas, etc. Mais là malheureusement ils sont en train de se déclasser, ils sont en train de s'appauvrir, et ça bien entendu c'est insupportable. Alors pour revenir sur le débat sur les dépenses publiques, c'est vrai que ça c'est incroyable, parce que aujourd'hui en France, on le dit pas assez, mais les dépenses sociales, c'est 32% du PIB français. On est numéro 1 au monde. La moyenne de l'OCDE, c'est-à-dire les pays riches, c'est 20%. Nous, on est à 32%. Donc, c'est pas un problème de moyens, mais d'allocation de ces moyens. Effectivement, quand on voit, moi, ça fait 15 ans que je préconise, nos dirigeants notamment, réduisez les dépenses de fonctionnement. Vous voyez, pas les dépenses sociales, de fonctionnement. Donc, qui augmente de 10 à 15 milliards d'euros chaque année depuis 15 ans.
Avec une bascule et
ça n'est jamais fait. C'est quand même assez incroyable. Donc là, ça c'est facile, c'est pas du social. Mais même ça, effectivement, on n'y arrive pas. Parce qu'il y a un problème de courage, tout simplement, politique.
C'est très important de le dire, notamment Marc a expliqué dans un papier que moi j'ai trouvé lumineux. Mais c'est vrai, qui m'a vachement éclairé, que ça avait, il y a eu un virage sous Jospin, parce qu'à l'époque où on n'avait pas de problème de finances publiques, etc., on a transformé des dépenses de fonctionnement en dépenses structurelles de fonctionnement. Et donc moi j'ai compris ça à ce moment-là. Mais il faut expliquer, parce que quand on dit qu'il faut réduire la dépense publique, on a tendance à penser qu'on va licencier des infirmières ou qu'on va fermer des hôpitaux. Oui, et c'est non, pas du tout forcément le sujet.
Il faut réallouer cette dépense.
Exactement. Et mieux mesurer l'efficacité, absolument.
Bien sûr. Mais déjà, une meilleure gestion permettrait au contraire d'avoir plus d'infirmières, peut-être. Moins d'administratifs, moins de surcharges là où on n'en a pas besoin, de gras où on n'en a pas besoin, pour investir là où nous en avons besoin. C'est l'essentiel.
C'est ça qui est insupportable, c'est que bon, on est donc numéro un des dépenses publiques, presque 60% de notre économie. On est numéro un également des impôts. Donc nous serions en droit de demander justement un État protecteur. De ne pas avoir ces problèmes d'inflation, ces problèmes d'inégalité, de pauvreté, et ce n'est pas le cas. Donc c'est bien, c'est un problème d'utilisation de ces moyens et donc d'allocation, et ce qui ferait que, mais là encore une fois, il manque un courage politique pour avoir cette vista, et c'est ce qui nous manque. Je suis d'accord. Cette vision du monde, parce que l'indicateur de confiance des ménages est sur des plus bas historiques.
C'est plus important que pendant ce temps-là, quand vous faites de la dépense structurelle, vous ne pouvez pas faire de la dépense d'investissement. Et c'est la raison pour laquelle nos services publics s'effondrent. Mais le grand symptôme, à mon avis, moi qui m'effraie, enfin, je ne sais pas si vous partagerai mon point de vue, c'est que le grand déclassement des classes moyennes dans ce pays, c'est le symptôme d'une paupérisation d'un État qui était une grande puissance et qui en est de moins en moins une. C'est ça que ça signifie. Oui. Parce que là, on parle de manière un peu macroéconomique, mais en fait, les gens, sur leur pouvoir d'achat, on parle même plus des gens qui avaient de vraies difficultés, qui font partie des 10 millions de pauvres. On parle des classes moyennes françaises, qui sont la base même de la consommation en France et qui sont en train d'être déclassées et aspirées par une trappe à pauvreté.
Ça met le doigt sur l'essence même de ce que serait un projet de société. C'est ça, exactement. Je veux dire, donc, pourquoi se lever le matin, pourquoi bosser, à quoi aspirer, donc le rêve français est-il possible? Aujourd'hui, il est quand même fortement remis en question avec le grand déclassement.
Il est impacté. Allez, il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
Les États-Unis vont livrer 31 chars Abrams à l'Ukraine. Ce char lourd est en service depuis plusieurs décennies dans de nombreuses armées, notamment au Moyen-Orient. Selon Joe Biden, cette livraison n'est pas une menace offensive contre la Russie. Les États-Unis ont promis leur char à l'Ukraine pour que l'Allemagne accepte de livrer les siens. Au moins 2 morts et 7 blessés dans une attaque au couteau en Allemagne. Les faits se sont produits cet après-midi dans un train régional reliant Kiel à Hambourg. L'auteur présumé aurait entre 20 et 30 ans. Il a été arrêté. Le motif de l'agression, lui, n'est pas encore établi. Bruno Martini démissionne de la présidence de la Ligue nationale de handball. Il a été condamné aujourd'hui à une peine d'un an de prison avec sursis pour des faits de corruption de mineurs, des faits qu'il a reconnus. Cette condamnation est accompagnée de 5 ans d'interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs.
Merci Mathieu Devez. Dans un instant, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Laurent Pietraszewski, l'ancien monsieur retraite d'Emmanuel Macron. On va parler de cette réforme des retraites, du Front syndical uni, de toutes les actions qui sont prévues avant la mobilisation du 31 janvier. Va-t-on vers un blocage du pays? La réponse dans un instant dans Punchline. À tout de suite. 18h34, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est avec Laurent Pietraszewski, bonsoir. Bonsoir. Ancien secrétaire d'État aux retraites. Aujourd'hui, vous avez un cabinet de conseil, mais vous connaissez bien le dossier. Et évidemment, c'est un dossier qui préoccupe beaucoup les Français, parce que les syndicats ont fait une journée d'action extrêmement réussie le 19 janvier. Il y en a une autre le 31 janvier, puis il y aura beaucoup d'autres actions perlées d'ici là. On va juste écouter messieurs Martinez et Berger, respectivement CGT et CFDT, Front syndical uni, qui se tient et qui appelle à une nouvelle mobilisation. Écoutez-les.
Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger et rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale.
On n'est pas encore en vacances, ok? Il n'y a pas des vacances. Les vacances, c'est la semaine prochaine. Mais non, les vacances, c'est à partir du 5 ou 6, je crois, pour les premières zones. Donc aujourd'hui, il y a une mobilisation le 31. Ce qui est important, c'est le 31. Le 31, il faut qu'un maximum de citoyens, de travailleurs et travailleuses soient mobilisés dans les manifestations partout en France, le fassent dans le cadre qui était celui du 19, c'est-à-dire de façon revendicative et respectueuse et pacifique. Et c'est ça la démocratie, c'est qu'on puisse s'exprimer comme ça. Donc la CFDT, c'est la voie qu'elle poursuit. Le 31 au soir, on se regroupera de nouveau en intersyndicale pour décider ensemble, ce qu'on fait.
Voilà, Laurent Berger, un peu énervé qu'on lui dise « oui, vous allez bloquer les vacances scolaires ». Ça va être le grand blocage du pays, monsieur Pietraszewski?
Bon, ça, moi, je peux pas vous répondre sur ce qui se passera le 31. Ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, la première journée d'action des syndicats a été assez largement suivie. Je pense que vous en avez fait l'écho et la presse également. Bon, la question qui se pose aujourd'hui au gouvernement, c'est effectivement comment est-ce qu'il peut montrer des preuves d'ouverture, et ça, je dirais, sans doute vis-à-vis du Front syndical, mais aussi de l'ensemble de la population. Et il y a besoin, je crois, de pédagogie pour cette réforme. Ça, c'est un élément essentiel.
Les Français la trouvent injuste, cette réforme. Injuste. Ils sont 68% à la trouver injuste. Sur les carrières longues, sur les femmes, sur les seniors, l'emploi des seniors. Je ne vois pas sur quoi on pourrait lâcher, là, le gouvernement.
Bon, d'abord, vous savez, moi, j'ai porté une autre réforme, celle du système universel des retraites. Oui. Et on voit bien dans la pédagogie, qui est difficile à faire encore aujourd'hui, pourquoi? Tout simplement parce que c'est inextricable, cet écheveau de système de retraite dans notre pays. Tout le monde y voit son intérêt et tout le monde cherche à défendre son intérêt. Alors que si nous avions, et j'espère que nous y arriverons, un système universel, on pourrait poser tout cela. Alors, là, il y a une nécessité, c'est celle d'équilibrer le dispositif, contrairement à ce que j'ai entendu il y a quelques instants. Bon, quelle est la réalité? 2008, à 2019, nous avons un système qui est en déficit. Il manque en moyenne 10 milliards par an. C'est incontestable. C'est des années passées. Tout le monde peut le vérifier. Dans les années futures, on aura la même tendance à partir de 2023 jusqu'à l'horizon 2035. Donc, on ne peut pas dire que le système va s'effondrer lundi matin. Et ça, on est d'accord. Mais on peut dire quand même que durablement, depuis plus de 10 ans, et dans les 10 à 15 ans qui viennent, le système est en difficulté et il faut le rééquilibrer.
Alors, c'est pas exactement. Alors, je vais vous passer la parole après pour le débat, mais c'est pas du tout ce que dit le patron du COR, le président du COR, Pierre-Louis Bras. Écoutez bien ce qu'il a dit la semaine dernière devant des parlementaires. Il dit les dépenses de retraite ne dérapent pas. Écoutez.
Les dépenses de retraite sont, ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. Et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. D'accord ? En règle générale, ce propos suscite un certain étonnement.
Ben oui, un étonnement, parce qu'on nous serine à longueur de journée que le système va exploser. Et le monsieur qui a fait le rapport du COR, il nous dit « mais non, tout va bien, ça ne dérape pas ».
Ouais, alors je pense que si on regarde bien les propos de Pierre-Louis Bras, il parle en pourcentage du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut, de la richesse que nous produisons globalement. Et on sait que la part de retraite, c'est autour de 14%, c'est ça qu'il veut dire. Et c'est absolument pas à l'opposé de ce que je viens de vous dire, c'est qu'il manque tous les ans 10 à 15 milliards sur les 330. D'accord. C'est juste la réalité.
Bon, mais c'est cataclysmique ou pas?
Je vous l'ai dit, c'est pas cataclysmique. Bon, okay. Je pense que, de toute façon, on n'est pas, le but, c'est pas d'affoler tout le monde. Le but, c'est de dire, on se comporte, moi, je vais vous dire ça, en bon père de famille. En bon père de famille, moi, j'équilibre mon budget dans le temps et je le fais avec les moyens qu'on me propose. Et là, celui qu'on nous propose, c'est de travailler un peu plus ensemble. Et il faut le faire avec, vous avez souligné ça dès le début, avec une nécessité de justice, d'équité, d'attention pour les carrières longues et les métiers pénibles. Je crois que c'est ce qu'on va discuter ce soir.
Allez, Marc-Fatine.
Et puis, attention également, dans les prévisions, effectivement, du corps et même de la loi actuelle, on a une croissance entre 2 et 2,5%, une croissance économique, donc du PIB, justement. Donc si ce n'est pas le cas, évidemment, mécaniquement, le trou augmente. Et parallèlement, on tape sur un taux de chômage qui va baisser à 5%. C'est vrai qu'il a un petit peu baissé aujourd'hui, on est à 7,3%. Mais le taux de chômage global de sous-emploi, il est à 16,5%. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas autant également de cotisations. Donc les hypothèses, justement, qu'avance le corps, elles sont extrêmement optimistes. Et puis n'oublions pas également qu'on a aujourd'hui même un déficit chaque année de 30 milliards à peu près des retraites, des fonctionnaires, et l'État paye, abonde, justement. Ouais. Donc, il y a déjà un trou qui est là, mais on ne veut pas le voir, parce qu'il est financé par l'État. Mais avec une dette publique de quasiment 3 000 milliards d'euros, et donc bientôt bien plus,
vous aimez
effectivement.
Bien nous faire peur avec ces chiffres.
Non, je vais pas peur, Marc. Encore une fois, c'est-à-dire, si. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire que si on dit oui, bah, tout est sous contrôle, à ce moment-là, oui, nous ne faisons pas la réforme de la retraite. D'accord. Le problème, je pense, de la réforme de la retraite, c'est que moi, j'étais effectivement pour une réforme beaucoup plus large, et s'arc-bouter sur l'âge en tant que tel, c'est ça. Qui pose ce problème et qui ne nous permet pas finalement à tous les Français de choisir. Si on avait ce choix, déjà, il n'y aurait pas la CFDT dans le cortège. Et puis en plus, on aurait peut-être une moindre adhésion justement au dérapage.
Monsieur Pietraszewski, une question avant de passer la parole à mes petits camarades. Les femmes, elles sont pénalisées par cette réforme des retraites. Celles qui, alors on nous dit mais il y aura le congé parental qui sera pris en compte dans le calcul, on nous dit un certain nombre de choses, les pensions minimales vont être réévaluées, ça va profiter en grande majorité aux femmes parce que c'est elles qui ont les plus petites pensions. Mais les femmes qui ont eu des enfants, elles avaient des trimestres cotisés, 3 trimestres cotisés par enfant. Mais tout c'est complètement gommé par la réforme.
Par la réforme, heureusement d'ailleurs.
Ah bah si. Mais vous prenez une femme d'un certain âge avec 2 enfants, elle partira 2 ans plus tard qu'un homme du même âge.
Dans la mesure où elle a tous ses trimestres. Et on va juste prendre 2 minutes.
Inégalité.
Regardons comment. Inégalité. En fait, aujourd'hui, notre système de retraite, c'est et l'âge, il faut avoir 62 ans pour ouvrir ses droits, et la durée, actuellement, il faut 42 années de cotisation. Demain, il en faudra 43. Voilà. C'est et le système actuel. Donc, actuellement, là, aujourd'hui, au moment où on parle, il y a des gens qui vont avoir travaillé plus de 42 ans, alors que la durée, c'est 42 ans. Et je vais vous dire un coup incroyable, c'est que l'an dernier, c'était déjà le cas. Et l'année d'avant encore, c'était déjà le cas. C'est comme ça, c'est un système qui est construit comme cela. C'est la durée et l'âge. Donc, sur le sujet que vous évoquez, nous avons effectivement, quand on regarde les femmes sur la borne de l'âge 62, l'âge d'ouverture des droits, et 67, pardon, c'est l'âge d'annulation de la décote. C'est l'âge où, si vous n'avez pas travaillé vos 42 ans, parce que vous avez une carrière hachée, eh bien, là, on ne vous applique pas de décote. Donc, entre ces deux bornes, de 62 et de 67, aujourd'hui, on retrouve une part importante des femmes autour de 62 ans, parce qu'elles ont, et c'est celles qui ont les carrières les plus continues, elles sont proches, c'est sans doute votre exemple, Laurence Ferrari, elles ont en plus des trimestres validés par le fait qu'elles ont eu des enfants et qu'elles ont éduqué. Et puis on a à l'autre bout de cet intervalle, autour de 67 ans, beaucoup de femmes qui ont des carrières hachées et qui doivent attendre 67 ans pour ne pas se voir appliquer de décote. Eh bien, ce que l'on peut voir dans ce dispositif, c'est que toutes celles qui sont dans ce bout 67 ans, eh bien, ne vont pas travailler plus, que la réalité, c'est qu'elles ont des pensions de 40% inférieures à celles des hommes. Elles vont bénéficier de façon la plus notable de la progression moyenne de la pension. Et effectivement, pour certaines, c'est la vérité, pour certaines qui sont dans ce début d'intervalle de 62 ans, elles devront travailler plus parce que c'est la durée plus l'âge. Pour tout le monde, hommes et femmes, et c'est déjà le cas aujourd'hui, c'était le cas hier, c'était le cas avant-hier.
Bon, alors, Éric Revel.
Monsieur Piatrzewski, je voulais vous poser une question. Vous l'avez très bien démontré, en fait, vous avez une façon de prendre cette réforme des retraites qui est une sorte de tableau Excel, d'approche comptable, alors que peut-être cette réforme aurait pu bénéficier de réflexions plus en amont du gouvernement sur le sens du travail, l'évolution de la société. Mais ma question est la suivante. Vous avez porté à un moment donné une réforme des retraites qui a été arrêtée par le président de la République parce qu'on était en pleine crise sanitaire. Aujourd'hui, on est en pleine crise sociale où se cristallisent les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes de salaire, etc., etc. Est-ce que vous conseilleriez à la Première ministre, je ne vais pas mettre le président de la République dans le coup, de bien regarder, est-ce qu'il faut maintenir cette réforme des retraites parce qu'à une crise sanitaire a succédé une crise sociale qui menace quand même d'enflammer le pays.
Alors, qu'est-ce que vous lui dites à Mme Borne?
Vous savez, mon job aujourd'hui, c'est de conseiller les entreprises sur les sujets...
Vous la conseillez
ou... essentiellement... je vais vous répondre. Mais d'emploi des seniors et de santé au travail. Je vous réponds, c'était pas une pirouette, je vous réponds parce que c'est totalement connecté. J'avais proposé au président de la République que justement, dans ce portefeuille ministériel que j'avais, on joigne la santé au travail avec les retraites. Parce que c'est une des clés d'une politique de vieillissement actif. Et alors, je vous m'intéresse que moi, je suis pas du tout tableau de sel, même d'ailleurs, ceux qui ont travaillé avec moi dans la grande distribution pendant 25 ans vont dire « Oh là là, c'est vraiment pas les gars qu'il fallait faire des tableaux Excel ». Mais par contre, la réalité, c'est que effectivement, on a cette nécessité... On a cette nécessité de réaliser, pour ceux qui ont plus de 50 ans, plus de 55 ans, des aménagements de fin de carrière, de prendre en compte la réalité de la pénibilité des métiers. Moi, j'entends les remarques qui sont pas toutes injustifiées d'un certain nombre de réformistes syndicalistes qui, effectivement, disent « Mais comment est-ce que vous allez faire pour prendre en compte la pénibilité de quelqu'un qui fait des travaux de voirie à l'extérieur pour quelqu'un qui est plaquiste ?» C'est pas illégitime, hein, franchement, quand ils viennent challenger le gouvernement là-dessus. Donc, votre question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le sujet ? Moi, je crois que le gouvernement a mis sur la table un certain nombre de choses, sur la prévention de la pénibilité, de l'usure au travail. Je pense que ça doit ouvrir de grandes négociations d'entreprises et de branches pour identifier les métiers qui sont sans aucun doute les plus difficiles à réaliser et à avoir une politique, y compris d'aménagement de fin de carrière.
Est-ce qu'il faut renoncer avec la crise sociale dans laquelle on est, puisque vous avez renoncé, vous, le président de la République à l'époque, à mettre en place cette réforme parce qu'il y avait une crise sanitaire? C'est une nouvelle crise.
Les contextes sont pas tout à fait les mêmes. Et surtout, c'est que
il y a le mot crise.
Une réalité que vous partagez, je le sais, et merci de relancer comme le débat. Mais cette réalité qu'on a tous vécu, tous, l'ensemble des salariés, celle de la crise sanitaire que vous avez évoquée, l'ensemble des salariés qui ont pu rester chez eux, indemnisés, comme cela n'a jamais été réalisé dans aucun pays d'Europe ou du monde. Les petits entrepreneurs qui ont été aidés par le Fonds de solidarité, les grosses entreprises qui ont pu maintenir l'emploi. La réalité, c'est que nous avons collectivement, vous savez, moi je travaillais au gouvernement, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait ça tout seul, on l'a fait ensemble avec les citoyens français, on a tenu la société française dans cette crise sanitaire. Donc aujourd'hui, il nous faut produire plus de richesses collectivement et on peut le faire en travaillant plus, mais je suis parfaitement en phase avec ce que vous avez dit sur la dimension la pénibilité et sur la dimension de l'emploi des seniors. Là, très franchement, il y a des choses à améliorer.
Hein. On ne retire pas la retraite, on la garde coûte que coûte, quitte à bloquer la France entière.
Coûte que coûte, il faut à un moment donné être dans une situation où aussi on est face à nos réalités. C'est ce que nous avons été tous protégés pendant les deux années de la crise sanitaire.
D'accord. Donc, faut passer à la caisse, là.
C'est pas passer à la caisse. Passer à la caisse, ça voudrait dire que certains rendent ce dont ils ont bénéficié.
Ils le remboursent, oui, ça s'appelle PGE, ils le remboursent.
Collectivement, nous pouvons équilibrer au moins notre situation en matière de retraite par un peu plus de travail.
Geoffroy Lejeune, vous avez une question?
Mais j'ai une question, et quelque chose que je ne m'explique pas, mais c'est une vraie question, c'est pas quelque chose de malin pour vous mettre dans l'embarras, c'est que vous avez été ministre chargé de ce dossier. Et, non, pas du tout, non, pas du tout.
Alors, ministre chargé de la question des retraites.
La question d'Éric. Vous avez été chargé de ce dossier, donc, si je ne m'abuse, en 2019. C'est-à-dire que vous avez porté la précédente réforme, qui était celle d'Edouard Philippe initialement, en tout cas défendue par Edouard Philippe, qui était une réforme qu'on disait à l'époque systémique, c'est-à-dire du système et non paramétrique des curseurs comme aujourd'hui. Et à l'époque, je me souviens très bien de ce que disait Edouard Philippe. Il expliquait, et même Emmanuel Macron d'ailleurs le disait, il l'avait dit en 2017, il l'a redit d'ailleurs pendant le grand débat face à la presse à la fin du grand débat, que c'était un peu idiot, peut-être même dépassé, un peu has-been de penser en paramétrique et que la réforme systémique, le système universel était en fait génial, formidable, etc., qu'il fallait pas discuter. Moi, ce que je ne m'explique pas, c'est pas une attaque contre vous parce que vous avez depuis quitté le gouvernement, c'est pourquoi ce changement? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi entre 2017 et 2022 avoir changé cette stratégie, sachant qu'à l'époque, la réforme, alors il y avait une opposition, les syndicalistes étaient reçus à Matignon, je me souviens, à la fin toutes les semaines, d'ailleurs je crois que vous vous y colliez vous aussi. Je me souviens qu'il y avait un point, notamment sur la CFDT, un point d'achoppement qui était la question de l'âge pivot, mais en dehors de ça, la CFDT était plutôt encline à défendre le projet et l'opposition des Français était moindre que celle d'aujourd'hui. Donc ma question, c'est une vraie question, pourquoi ils ont changé d'avis?
Vous faites écho à la question de votre voisin de gauche en la matière de tout à l'heure. Tout simplement parce qu'on a vécu deux ans de crise sanitaire et que je pense que le président de la République est pragmatique. Alors, encore une fois, je comprends très bien la question. Moi, je crois à ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire je crois à la nécessité de remettre tout sur la table. Et je vais vous dire, de toute façon, on va y arriver pour une raison relativement simple. C'est que là, on est en train de traiter le sujet de l'équilibre, celui qui faisait justement débat et tension avec les syndicats réformistes. Le sujet de l'équilibre sera traité et je pense que nous pourrons, en tout cas moi j'appelle ça concrètement de mes voeux, nous pourrons travailler ensemble à l'élaboration d'un système de retraite universel qui rassure.
Avec une autre réforme, non?
Écoutez, en tous les cas, sur le fond, si on veut transformer les choses, si on veut les transformer, il faut faire une réforme.
On est parti pour un moment. Ne marque pas
cette réforme, justement. Mais le vrai enjeu, justement, c'est que par rapport au renoncement éventuel du gouvernement ou de M. Macron, c'est que si effectivement il y a un recul, alors là, toute la capacité de la France, du gouvernement actuel, à réformer l'économie française, à la moderniser, elle est battue en brèche. Là, je vous dis pas les taux d'intérêt qui ont augmenté parce que, effectivement, c'était le problème du quoi qu'il en coûte qui coûtait rien parce que c'était la banque européenne qui a acheté cette dette publique, donc ça nous coûtait zéro. Maintenant que taux d'intérêt ont fortement augmenté, ça nous coûte extrêmement cher. Imaginez, juste la facture de surcharge, de coût de la dette, 120 milliards d'euros sur 10 ans. Et c'est pas terminé. Donc si demain, on recule sur l'âge de la retraite, effectivement, la facture sera encore plus lourde parce que le taux d'intérêt aura encore plus augmenté. Mais parallèlement, si on n'a pas un terrain d'entente et qu'on bloque le pays, on aura une telle récession qu'on aura rien gagné. Donc moi, je pense qu'il faut trouver un terrain d'entente, sinon, effectivement, ça sera très compliqué pour la France.
Vous connaissez bien Emmanuel Macron. Il reculera ou pas?
Écoutez, moi, je ne suis pas à parler à la place du président de la République. Je comprends votre question.
Mais il est d'une nature à reculer ou pas?
Le président de la République mène une politique dans le sens de l'intérêt général, conforme à ses engagements. Très franchement, le président de la République n'a pas besoin de moi comme porte-parole. Donc moi,
mais
je vous le dis,
connaissez, moi je ne connais pas aussi bien que vous.
Écoutez, je crois que le président de la République, voit bien. Ce qu'il est nécessaire de faire, et il voit bien.
Il voit pas qu'il y a une petite crispation.
Effectivement, mais si, je pense qu'il perçoit très bien le front syndical qui est affiché derrière vous, Laurence Ferrari en photo, et je crois qu'il est attentif aux équilibres qu'il doit y avoir dans sa loi. Et ça veut dire que quand je vous ai dit tout à l'heure que sur l'emploi des seniors, il y a des choses à faire.
Alors quoi?
Il faut ouvrir des négociations de branche. Il faut aménager les fins de carrière. Il faut identifier les métiers qui ont besoin d'investissement, d'investissement fort. Il faut trouver des solutions pour que aujourd'hui, qui ici autour de la table n'a pas fait un repas du dimanche midi avec un oncle, un ami qui à 58 ans n'a plus de boulot dans la boîte. C'est la réalité. Et vous avez cette réforme. Eh bien, tout l'art du gouvernement, et pour le coup du président de la République, ça va être de trouver une voie de passage entre deux réalités. Et ces deux réalités, on les connaît. Celle qui a été rappelée tout à l'heure, en réalité, par mon voisin de gauche, sur le déficit du budget à la fois national, mais aussi du budget des retraites. Et aussi sur cette réalité qui fait qu'on a structurellement, dans notre pays, depuis plus de 35 ans, exclu les travailleurs on va dire expérimentée, de l'emploi, parce que c'est une pratique, et c'est pas une pratique, je pointe pas du doigt les uns ou les autres, parce que c'est une... Mais vous savez, Laurence Ferrari, c'est pas qu'une pratique des entreprises. Les partenaires sociaux, les représentants des salariés signaient cela, parce qu'on leur a expliqué, à un moment donné, pendant 30 ans, pendant 35 ans, que le travail était une constante, qu'il fallait diviser le travail pour le partager. On s'est un peu moins posé la question de comment créer de la richesse pour le partager. On voit bien aujourd'hui que le rapport au travail, on en parlait un petit peu en off, là, pendant les pubs avec vos animateurs, et vos éditorialistes, que effectivement ça avait sans doute changé. Eh bien, je crois que c'est ça qu'on est en train de reconstruire. Donc oui, ça prend du temps. Oui, il faut trouver des voies de passage et il faut le faire. D'accord. Là, vous avez raison, alors, de façon le plus apaisée possible.
Oui. Alors, mais l'index pour l'emploi des seniors, excusez-moi, moi ça me fait un peu rigoler. Il faudrait peut-être pas prendre des mesures un tout petit peu plus fortes, baisser les charges sociales, je sais pas.
Écoutez, vous êtes
pour l'emploi des seniors,
vous connaissez le dossier. Revisiter effectivement le contexte. Bah, il faut m'inviter plus longtemps. Revisiter, revisiter le contexte, on va dire fiscalo-social, qui concerne l'ensemble des travailleurs expérimentés de plus de 50 ans. Voilà un sujet qui est important. Et quand on se rend compte que les entreprises, elles payent plus sur une prime de départ en retraite que sur un licenciement. Bah, on a là des stratégies de contournement qui se font. Enfin, les entrepreneurs, vous vous rendez compte, on leur demande de payer plus sur une prime de départ en retraite que sur un licenciement. Bah, il y a des choses qu'il faut peut-être mettre à plat. Il faut en discuter. Vous savez, je ne crois pas que les employeurs soient fermés à cela. Et puis, le salarié, lorsqu'on lui propose un aménagement de temps de travail. On va prendre un exemple. Ça existe en Finlande. Bon, la Finlande, c'est pas une contrée si lointaine que ça. Bien, on est capable de dire à un salarié qui peut-être passé 55 ans, choisit de réduire son temps de travail. Alors, on n'est pas obligé de le faire juste dans le cadre de la retraite progressive. On peut le faire aussi un peu avant. Peut-être que moi, à 55 ans, j'ai envie de m'occuper peut-être de mes petits-enfants. Peut-être que je ne suis pas mal à l'aise, compte tenu de mon parcours personnel et professionnel, à réduire à 4/5 mon temps de travail. Peut-être qu'on peut le faire de façon compensée, financièrement, pour ceux qui ont des métiers pénibles.
Il fallait peut-être le faire avant, non? Il fallait y penser avant dans les négociations.
Très franchement, ça doit faire partie des négos. Et vous avez raison, il y a une asymétrie entre la dimension budgétaire, qui est très, très bien, pardon, j'arrive tout de suite, la dimension budgétaire qui est très bien instruite, et c'est très clair, et la dimension plus qualitative, où on a l'impression que sur l'emploi des seniors et la pénibilité, il y a encore du grain à moudre, il y a encore à bosser.
Vous n'avez pas voulu montrer du doigt les entreprises françaises, mais quand on regarde le classement dans l'OCDE de l'employabilité des seniors, même si on a remonté, on est en bas de classement. Ouais. Ça veut dire que historiquement, pardon, les entreprises françaises n'ont pas gardé leurs seniors par rapport à d'autres entreprises de l'OCDE.
C'est vrai. C'est intéressant ce que vous dites, parce que si on prenait l'exemple d'une grande société qui fabrique des voitures avec un losange sur la calandre. Quand elle fabrique ces voitures-là de l'autre côté des Pyrénées en Espagne, où la retraite est à 65 ans, hein, c'est pas un pays particulier l'Espagne non plus, hein, eh bien, elle n'a pas ces difficultés avec les seniors que nous avons aujourd'hui. Et pourtant, on fabrique sur les mêmes chaînes, avec le même type de poste de travail. Donc, on a bien la nécessité... avec l'Espagne, c'est quasi similaire. Mais sur le fond, on est à la marge. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une comparaison avec l'Extrême-Orient, par exemple. Le sujet, c'est une question aussi de construction sociale par le dialogue. La nécessité, ce que vous avez évoqué, c'est qu'on retrouve via les branches, via les entreprises, des accords qui permettent de garder, de maintenir dans l'emploi. Parce que notre sujet, c'est pas de leur permettre de revenir dans l'emploi, c'est de les maintenir dans l'emploi, nos salariés les plus âgés. Et ça, c'est un super challenge, c'est un super défi pour le gouvernement, comme pour les employeurs, comme pour les représentants des salariés.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette réforme des retraites, M. Pietraszewski. Revenez la semaine prochaine. Des grosses mobilisations, on aura besoin de vos lumières. Merci Marc Toiti, Geoffroy Lejeune et Eric Revel. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités sur CNews pour Face à l'info et Europe Soir avec Hélène Zellani et Raphaël Devolvé. Sur Europe 1, bonne soirée sur nos deux antennes. À demain.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.